TV. Le midi, on en jase.
Le midi, j'ai le temps.
À Boulevard 102.1.
Ok, oui, on en jase comme habituellement de midi à 14h sur les ondes de Boulevard 102.1. Pour nous joindre, 418-971-102.1. Meilleure façon de nous écouter, l'application Boulevard sur App Store, Google Play Store. On est disponible sur twitch.tv. /BLVD/FM. Et on est également sur la web radio au BLVD.FM. À la météo, ben c'est une journée un petit peu plus difficile aujourd'hui. C'est 13 degrés actuellement avec de la pluie. On prévoit 17 degrés au maximum. Mais demain, 21 degrés, seulement 40% de possibilité d'averse et 19 degrés pour samedi. Ensoleillé dimanche, 23 degrés, alternance soleil et nuages. Pascal, c'est vrai, tu vas être d'accord avec moi, on est pas mal toujours sur la news, hein, on en jase.
Écoute, jusqu'à maintenant, ça se passe super bien. En même temps, on est trois personnes passionnées par l'actualité.
Exactement. Antonine Iaccarini, d'habitude, je pèserais sur le piton puis je dirais on part le caucus, hein?
Oui, d'habitude, oui. Ouais.
Mais on fera pas ça parce qu'on a une personne en ligne qui nous attend pour une entrevue très intéressante. C'est Maïté Blanchette-Vézina, députée indépendante de Rimouski et ancienne ministre des Ressources naturelles et des forêts. Parce que pendant qu'on va parler à Maïté Blanchette-Vézina, bien le premier ministre François Legault va annoncer à la Fédération des municipalités du Québec le retrait du projet de loi 97 sur le régime forestier qui avait été piloté par Mme Blanchette-Vézina. Alors voilà pourquoi nous allons lui parler immédiatement. Madame Blanchette-Vézina, ça va bien?
Oui, très bien, vous-même?
Oui, ça va très, 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 très bien. Est-ce qu'on sent de la frustration aujourd'hui de votre côté avec cette annonce qui doit être en train de se faire par le premier ministre?
Non, c'est pas de la frustration, c'est plus une inquiétude pour les régions du Québec que j'apprécie et que j'aime, mais qui pour lesquelles j'ai travaillé, bien sûr, fort, mais que beaucoup de parties prenantes ont travaillé fort. Tu sais, moi, j'espère sincèrement que ce volte-face-là va permettre après d'arriver avec un projet de loi où on recommencera pas des consultations pour gagner du temps encore une fois. On le sait, M. Legault a une tendance à revenir sur des décisions recommencées, mais d'avoir des difficultés à prendre des décisions. Là, c'est encore une fois un exemple frappant de ça. Mais il y a un travail qui a été fait exceptionnel de la part des parties prenantes sur le terrain. Puis là, je pense bien sûr aux Premières Nations, mais à l'industrie forestière, aux communautés forestières, la FQM, l'UMQ, les groupes environnementaux pour améliorer le régime forestier cet été, dans les derniers mois également. Donc, je pense qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il faudrait prendre des décisions parce que s'il y a un consensus clair, c'est que le statu quo n'est plus possible pour la gestion de nos forêts.
Je pose la question fragile et sensible. Pensez-vous que c'est parce que c'était votre projet ou parce qu'il était trop critiqué?
Ben, je pense que on avait des orientations claires. C'est sûr que c'est difficile d'avoir une acceptabilité sociale lorsqu'on pense à un seul secteur. Puis M. Legault avait cette volonté de faire un régime forestier qui se rapproche de l'Ontario, qui est très, très facilitant pour l'industrie. Moi, dès les consultations particulières, j'avais nommé que des changements importants devraient être envisagés. J'étais très ouvert à le faire, malgré les difficultés que j'avais avec l'équipe du premier ministre à faire des ajustements. Le premier ministre lui-même avait nommé qu'il n'y en aurait pas. Encore aujourd'hui, bon, on revient sur des décisions qu'il prend. Pour moi, c'est un exemple parmi tant d'autres que le premier ministre a des difficultés lorsque les dossiers deviennent plus corsés. Je pense quand même qu'il fallait apporter des changements importants, mais il ne faudrait pas recommencer. Là, je ne sais pas la décision qu'il prendra aujourd'hui. J'espère qu'il a entendu les entrevues qu'on a faites ce matin, moi et d'autres, pour dire ben il y a des bonnes choses, il faudrait avancer parce que c'est important de le faire.
Est-ce que vous avez l'impression que le premier ministre essaie un peu de vous faire porter le chapeau? Parce que, bon, vous quittez le Conseil des ministres et là, quelques jours après, on annonce l'abandon de ce projet de loi et qu'on va finalement refaire le processus pour le nouveau régime forestier. Pourtant, quand on fait un projet de loi, on collabore avec le cabinet du premier ministre, il y a plusieurs étapes, ça a passé au Conseil des ministres. Pourquoi ça arrive après le remaniement ministériel, ce recul-là de la part de M. Legault?
Ben, c'est possible qu'il essaye de me faire porter l'odieux des petits tollés que ça a pu soulever. Moi, je pense quand même qu'on doit avancer avec le projet de loi ou un autre, mais rapidement, arriver avec des changements pour la forêt. Puis dans ces ajustements qui doivent être faits, il y a notamment le forestier en chef, c'est qu'il a nommé que que le statu quo n'est plus possible dans l'aménagement. Ça, c'est notre vérificateur général des forêts, qu'il faut aider les forêts à traverser, à être plus résilientes face au changement climatique. Alors, de retarder encore des prises de décision importantes, notamment sur cet aspect-là, ben moi, ça m'inquiète. Ça m'inquiète pour, une filière économique importante pour les régions, mais aussi parce que j'ai vécu les feux de forêt de 2023. J'étais aux premières loges pour avec la gestion de la SOPFEU. Donc, il est important d'agir et de repousser les décisions. Ça ne fait que créer encore plus d'incertitudes là, dans un contexte qui est déjà difficile.
Comment le projet de loi que vous aviez piloté venait justement améliorer la situation économique dans les régions?
Mais il y avait bien sûr une façon d'avoir une meilleure prévisibilité des usages en forêt qui a été décriée par plusieurs parties prenantes. Ce qui a été discuté notamment durant l'été, des suggestions qui ont été faites par la FQM, le Conseil de l'industrie forestière aussi a changé son fusil d'épaule en cours de route, c'est concernant des régionalisations des décisions, avoir des sociétés d'aménagement régionalisées qui pourraient, oui, peut-être faire un certain zonage forestier dans les régions où ça peut se faire, mais pour d'autres, avoir au moins, à tout le moins, les parties prenantes, puis là je pense aux Premières Nations autour de la table, pour prendre des décisions qui, dans les régions, sont importantes. Alors, il y a plusieurs éléments sur lesquels on peut tabler, qui ont été déjà avancés, qui seraient, je pense, bénéfiques pour l'avenir de la filière, l'avenir de nos communautés forestières. Et donc, tout est déjà sur la table. Je pense que on doit avancer, ils doivent avancer rapidement, mais bien sûr avoir une meilleure cohésion et ne pas penser uniquement en termes industrie, mais en termes aussi de retombées pour les régions du Québec.
Lorsque vous avez quitté le caucus de la CAQ, vous avez parlé justement que François Legault délaissait les régions au profit des grands centres urbains. Est-ce un bon exemple que de reculer sur le projet de loi 97?
C'est un bel exemple, effectivement. Je sais que plusieurs députés du caucus souhaitent que le régime forestier soit revu. Il en va de la survie souvent d'usines qui sont dans leur comté, puis pas juste d'usines, c'est tout un écosystème. Lorsqu'une usine ferme, c'est la récolte forestière, c'est les travailleurs sylvicoles qui font le reboisement, c'est tous ceux qui dépendent des copeaux qui vont avoir un impact. Alors, je sais que les anciens collègues du caucus nommaient l'importance d'avoir un ajustement au régime forestier. J'espère sincèrement que le premier ministre va les écouter.
Quand on parle d'économie, clairement, on le constate à quel point c'est important, puis ça va dans un engrenage auprès de bien des industries puis des gens qui travaillent fort ici, qui nourrissent leur famille. Mais il y a des impacts, des enjeux importants pour la suite des choses. Selon vous, quelle lumière on doit allumer dans l'industrie forestière, autant dans les négociations avec les communautés qu'avec ce qui s'en vient à l'international puis les enjeux économiques?
Oui, il y a un virage qui doit être fait dans l'industrie. Là, on parle d'un point de vue plus macro. Là, on a, dans les dernières années, beaucoup misé sur l'exportation de produits de 2x4, là, nommons-le, qui est destiné aux États-Unis, presque à 100%. Dans les derniers mois, j'ai travaillé fort pour qu'on puisse développer des relations avec l'Europe, s'inspirer aussi des pays scandinaves comme la Finlande. D'ailleurs, il y a une entente qui a été signée juste avant mon départ là, pour permettre d'avoir des collaborations pour avoir d'autres débouchés, une deuxième, troisième transformation de la récolte, oui, qui sert à construire des maisons, construire, on en a besoin, des logements, plus de construction avec le bois du Québec, mais créer un marché intérieur, mais aussi voir à d'autres débouchés, utiliser les résidus de bois pour, par exemple, faire de l'électricité. Je sais que la Finlande a des produits qui sont faits avec la lignine, là, qui est comme un plastique, si vous voulez, là, qui sert en remplacement de plusieurs produits. Donc, l'industrie forestière va devoir se moderniser. Elle est rendue là. Elle a déjà débuté ce virage-là. Mais si on n'améliore pas nos façons de faire dans la gestion de nos forêts, ben c'est l'approvisionnement de la matière première qui est à risque pour eux. Et ça veut dire un pan important de leur rentabilité. Puis en termes économiques, c'est ça, mais en termes aussi pour les régions du Québec d'accès à nos forêts, de pouvoir continuer de bénéficier d'avoir les bénéfices de nos forêts québécoises. En termes d'accès au territoire, c'est beaucoup l'industrie forestière qui entretient, qui ouvre les chemins. Donc, sans cette industrie, ben, c'est difficile d'aller à la chasse, à la pêche, de pouvoir avoir un réseau de chemins qui est bien entretenu. C'est tout ça qui doit être mis dans la balance. Puis je pense que l'industrie, elle est rendue là, c'est ce qu'il me nommait. J'espère que le gouvernement va les aider à faire ce virage.
Vous aviez quitté le caucus de la CAQ il y a quelques jours maintenant. Vous avez fait cette conférence de presse. Là, c'était un geste fort, des critiques quand même virulentes envers M. Legault, son cabinet. Je sais que ça a brassé au caucus avec les autres députés également. Est-ce que vous êtes encore en contact avec vos anciens collègues? Est-ce que certains députés vous ont contacté aussi pour vous dire qu'ils vous soutenaient dans votre geste, dans les choses que vous avez dénoncées là, pendant cette sortie-là?
Oui, bien, j'ai nommé tout haut ce que plusieurs pensent tout bas. Ceci étant, c'est pas tout le monde qui a le courage de prendre cette décision-là. Moi, je n'arrivais plus à revenir dans mon comté et sentir que j'avais fait les bonnes choses, pris les bonnes décisions pour mes citoyens. Je voyais les décisions qu'on prenait qui allaient à l'encontre de l'intérêt des gens qui m'ont nommé, qui m'ont fait confiance. Et c'est pour ça que j'ai pris la décision de suivre mes convictions, d'agir avec maintenant liberté, authenticité pour l'intérêt de mes citoyens. Et les gens ont très bien accueilli dans mon comté ma sortie. Là, je suis contente de voir le soutien de la part des gens ici à Rimouski.
Madame Blanchette-Vézina, est-ce que vous êtes souverainiste?
Je suis très nationaliste, mais souverainiste en ce moment, je vous dirais, il devrait y avoir un débat public sur la question pour que je puisse me positionner. J'ai travaillé dans le contexte avec Donald Trump, là, je vois les impacts que ça a. Donc, je demeure à être convaincue, mais je demeure une nationaliste très forte.
Donc, vous êtes ouverte à la souveraineté?
Mais je pense que le Québec a tout ce qu'il faut pour se démarquer. Est-ce que c'est un bon contexte en ce moment avec Donald Trump, avec les difficultés que nous avons avec notre premier partenaire d'affaires? Je demeure à être convaincue.
Non, parce que je vous disais ça, parce qu'il y a un certain chef, Paul Saint-Pierre Plamondon, qui dirige le Parti québécois, qui va chercher des candidats pour l'élection 2026. Et comme vous voulez vous représenter, je regardais, là, je tâtais le pouls là, pour lui, il m'avait donné une mission.
Ah ben écoutez, j'ai dit la semaine dernière, puis je le répète, l'indépendance que j'ai en ce moment, je l'apprécie grandement. Puis si je revenais avec un parti, ce serait clair qu'il y aurait une vision pour le développement des régions du Québec. Donc, pour l'instant, je demeure indépendante.
Excellent. Trouvez-vous que le PQ a une bonne vision du développement des régions?
Je demeure à être convaincue. Il y aura une campagne électorale en 2026. J'imagine que leur plateforme sera en ligne éventuellement.
Madame Blanchette-Vézina, merci beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé. Félicitations pour votre courage et vous avez énormément de bons commentaires là, justement là, de nos auditeurs par rapport au fait que vous osez dénoncer là, des choses qui se passent présentement à la CAQ.
Merci beaucoup.
Merci, au revoir. C'était Maïté Blanchette-Vézina. Écoutez, Antonine n'a pas fermé la porte au PQ. Hein?
Non, pas fort, non.
Pas fort, hein? C'est ouvert, là.
J'avais hâte d'entendre Antonine.
Ben, c'est parce qu'à l'intérieur de la CAQ, il y a des souverainistes, il y a des nationalistes, il y a des fédéralistes. Ça le dit, c'est une coalition. Quand la coalition se met à craquer, ben, des fois, tu reviens à la maison.
Moi, je j'attendrai pas du PQ de recruter Mme Blanchette-Vézina.
Non,
je pense pas que ça va arriver, mais elle a pas fermé la porte. En tout
toi, tu penses qu'ils iront pas vers elle?
Non.
Non.
On a-tu le droit de développer? Oui, c'est ça.
Bien, écoutez, c'est parce qu'à un moment donné, le PQ s'est positionné de manière assez forte par rapport aux transfuges, aux gens qui sont partis, notamment les anciens péquistes qui sont partis à la CAQ. Je ne pense pas qu'ils vont aller chercher des caquistes comme ça. C'est pas Éric Duhaime là, qui jette là-dessus comme la misère sur le pauvre monde. Le PQ, en ce moment, ils ont le choix en plus. Puis Rimouski, c'est un très bon comté pour le PQ. Ils vont avoir le choix.
Ça fait-tu peur pour un chef de parti de voir comment, par exemple, une Chrystia Freeland peut avoir fait avec Justin Trudeau ou encore Maïté Blanchette-Vézina avec François Legault?
Écoute, je pense que le geste de Maïté Blanchette, il est important. Il y a un impact sur, j'ai envie de dire, un peu la fin de la vie politique de M. Legault. Mm. Est-ce que c'est une Chrystia Freeland? Je ne pense pas. Je ne pense pas que ça va changer la dynamique politique à ce point-là. Mais est-ce que ça pourrait précipiter une course à la chefferie éventuellement, peut-être? D'ailleurs, je ne l'ai pas posé la question, mais je me la suis posée. Est-ce qu'il y a des successeurs potentiels qui l'ont contacté, Mme Blanchette-Vézina.
Oui, en effet. Geneviève Guilbeault, un Bernard Drainville.
Bon, j'en ai marre, je ne sais pas. Puis, puis je dis, quand j'ai une source, je vous le dis, là, c'est pas du tout ça.
Là, tu as réfléchi simplement.
Je me disais simplement que peut-être que ça faisait l'affaire de certaines personnes qui aimeraient qu'on précipite les choses. Mais je suis pas mal certaine qu'elle a reçu des messages, du moins de collègues députés.
C'est clair.
Et elle le dit, il y a des gens qui pensent tout bas ce qu'elle elle a dit tout.
Sur le régime forestier, François Legault a-t-il mal géré le dossier? Parce que Maïté Blanchet-Vézina dit « Moi, j'ai répondu aux commandes du bureau du premier ministre lorsqu'elle l'a quitté. » Là, il y a un recul. Là, on regarde ça à la télévision. Là, il va s'en venir, là, François Legault, là, prochainement l'annoncer. Là. C'est un autre avance-recul de la CAQ qui fait rien pour aider leur notoriété. Là.
Absolument. Là. Je veux dire, c'est pour ça aussi que je lui posais la question tantôt. Je disais, est-ce qu'il essaie de vous faire porter le chapeau? Parce que, premièrement, notre système politique est très centralisé autour du premier ministre, de base. C'est tout puissant, un premier ministre. Il nomme les ministres. Si tu ne fais pas l'affaire, tu te fais tasser. Mm-hmm. On l'a vu il y a deux semaines. Maintenant, un projet de loi, ça ne passe pas directement d'un cabinet ministériel à l'Assemblée nationale pour être voté. Il y a tout un processus entre les deux. Il y a eu 2 ans de consultation. Après ça, il y a des allers-retours avec le cabinet du premier ministre. Sans arrêt. Il y a un conseiller ou une conseillère au cabinet du premier ministre qui a le dossier des ressources naturelles, des mines et des forêts. Cette personne-là est au courant de tout ce qui se passe dans le projet de loi. Là. Puis avant que ça se retrouve au conseil des ministres, parce que ça passe au conseil des ministres aussi, il y a des discussions. Ça a dû passer au caucus aussi, parce qu'il y a plein de députés que ça touche, un régime forestier. C'est pas un petit projet de loi qui touche un comté, ça touche plein de comtés régionaux.
Mais je ne me souviens pas. Je n'ai pas souvenir.
De
Jack, une joke d'actualité au nombre de gens que tu nommes en
François Legault s'en souvient peut-être pas. Il y a un conseiller à quelque part qui doit s'en souvenir d'avoir vu ce projet de loi-là passer. Donc, c'est pas vrai que c'est elle la seule responsable. Il y a un partage de la responsabilité. Donc, le recul aujourd'hui, c'est le recul du cabinet du premier ministre, c'est le recul du premier ministre aussi. Ça peut pas être seulement Maïté a mal fait sa job, fait que nous autres, on va la refaire. Ça marche pas. Ça veut dire que vous avez été brouillon aussi dans votre manière de faire les choses.
Pas le choix de comparer ça avec, par exemple, le troisième lien ici dans la région de Québec.
Les coupes en éducation cet été,
on
annonce
ça,
après ça, on recule 3 semaines plus tard. On a un peu de misère à prendre la chaleur là, du côté du gouvernement, puis des fois, ça vaut la peine de prendre la chaleur. Bon, dans le cas du régime forestier, il fait quand même pas mal l'unanimité contre lui. Tu sais, quand tu as des élus municipaux, même l'industrie qui n'est pas vraiment contente, Premières Nations, les environnementalistes, les syndicats, ça commence à faire beaucoup de monde, mais l'erreur à ce moment-là, c'est de déposer ce projet de loi-là tel quel. Là. Je veux dire, le premier ministre l'a vu passer, c'est certain. Donc, peut-être que c'était la chose à faire, en fait, de ne pas le déposer tel quel. Mais là, c'est sûr qu'on voit ça comme un recul. Puis, tu sais, on est supposé de se donner un nouvel élan là, avec un nouveau conseil des ministres. Je trouve que ça commence drôlement.
Ouais.
Moi, que je comprenne pas. Peut-être qu'on va tout comprendre, là, puis tout va s'éclairer. Puis là, c'est le discours d'ouverture mardi. Peut-être que ça va être extraordinaire, mais pour l'instant, ça a juste l'air d'un recul. Le PM fait cette annonce-là à la FQM, parce que notamment, la FQM avait critiqué le projet de loi.
Clairement.
Et je dois préciser que la FQM ne critique pas beaucoup le gouvernement. Ils sont plutôt gentils, en général, très constructifs. Ils sont dans les propositions. Ils sont pas en confrontation du tout avec le gouvernement. Donc, quand la FQM sort pour dire ça marche pas vraiment pour nous, disons que tu prends sérieux.
Ouais, c'est ça, exactement. Il y a des questions à se poser. On va faire une courte pause. Par la suite, Antonine, on continue le caucus Iacarini. On veut parler notamment de Post-Canada, cette entité que le gouvernement leur a prêté 1 milliard $. Puis là, le gouvernement va dire c'est assez, là. Je vais vous brosser les cartes moi-même. Là.
Ça fait un bout que c'est assez.
Exactement. Puis tu veux nous parler d'une affaire d'autruche?
Oui, je vous en dis pas plus tout de suite.
Puis Pascal, je pense qu'on va être généreux avec nos auditeurs hein, parce qu'on a un beau concours. On fait ça après la pause?
On fait ça après la pause. Si vous voulez aller voir la tournée Like a Rolling Thunder, faut rester.
Excellent. Vous êtes à l'antenne de Boulevard 101. C'est l'émission On en jase.
Jusque tu finis, jusqu'à la dernière seconde avant ton meeting avec ton boss. On en jase à Boulevard 101.
Oui, puis si on mettait les micros durant la pause, vous comprendriez qu'on en jase pas à peu près.
Même quand il n'y a pas de micro ouvert, la politique, la gestion d'opinion. Là.
Exactement. À venir dans l'émission également vers 12h45, ce sera le protecteur de l'intégrité en loisirs et en sport, Hugo Lafontaine, qui va venir nous parler. Imaginez-vous donc, dans les 3 derniers mois, 222 plaintes et signalements de gens.
Il va falloir que tu expliques qu'est-ce que ça fait et que ça mange en hiver. En long
lui,
titre,
là,
comme
dans
ça,
le fond, là, qu'est-ce qu'il fait? Là, c'est qu'il s'assure que le sport demeure un jeu. Donc, que ça soit sain
dans nos ligues
psychologiquement
scolaires.
Et physiquement.
Il relève de qui, lui?
Il relève de la ministre Isabelle Charest.
C'est fou comment on a rajouté beaucoup de commissaires à ceci, ouais, puis de protecteurs de cela. Je pense bientôt on va avoir besoin d'une table de concertation des commissaires.
T'as raison, des organigrammes.
Qui gère les commissaires.
Oui.
Tu sais, on était supposé alléger la bureaucratie, puis je dis pas ça contre votre invité du tout.
Mais
c'est un constat que je fais.
C'est un excellent constat.
C'est-tu les nouvelles commissions scolaires, centres de services, mais mettons pour les commissaires?
C'est ça. Ouais. 42 % des 222 plaintes sont pour de la violence psychologique dans le sport. Est-ce que nos coachs et nos coachs bénévoles prennent soin adéquatement de nos enfants?
Autre temps, autre mœurs, différence de génération, à suivre tantôt.
Oui,
dans
à suivre tantôt, on l'aura aux alentours de 12h45. En attendant, Pascal, tu veux commencer par quoi? On gâte nos auditeurs
on
ou des manchettes? On gâte, vas-y
ouais,
donc,
bon,
gâte-nous ça.
On avait envie de le faire et on le fait. Si ça vous tente d'aller au Centre Vidéotron prochainement, non. Mais si ça vous tente d'y aller le 11 mars prochain, oui. Pourquoi? Pour la tournée Like a Rolling Thunder. Et ça s'arrête au Centre Vidéotron avec Big Wreck et invité spécial de Damn Truth. C'est trois décennies, une seule soirée, puis des succès à pas manquer, c'est certain. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est votre band, c'est vos bands. Go, c'est maintenant, parce qu'on a une paire de billets pour le spectacle du 11 mars à vous donner. Ils sont aussi en vente sur gestef.com et ticketmaster.ca si jamais vous ne réussissez pas à mettre la main là-dessus. Donc, l'héritage qui va se perpétuer avec une célébration rock assez spéciale, on vous envoie au Centre Vidéotron. La paire de billets, c'est pour maintenant. Je veux savoir c'est quoi le nom de la tournée, puis parmi les gens qui vont avoir répondu au 418-971-1021, il y aura une personne gagnante.
Merci beaucoup, Pascal CV. Alors, allez-y, textez en grand nombre au 418-971-1021. Pascal, avant qu'on parle de Post-Canada, quelques manchettes.
Hey, on revient sur le meurtrier Robert Picton.
Arrive-t-il avec
oui,
lui?
On a parlé au meurtrier de Robert Picton. On a demandé des petites choses du genre « Pourquoi vous avez fait ça? » Et honnêtement, c'est un dossier qui a tellement marqué les gens encore en 2025. Et celui qui l'a tué a affirmé qu'il l'a fait pour les victimes. Lui aussi est condamné à la prison à vie. C'est un dangereux récidiviste et il affirme avoir tué le meurtrier en série Robert Picton. Il dit « J'ai perdu le contrôle, mais j'ai pas de remords. Je l'ai fait pour les victimes. » C'est ce qu'a affirmé Martin Charret. Il l'a fait ce matin depuis le pénitencier de Sainte-Anne-des-Plaines. C'est un criminel de 52 ans puis il a plaidé coupable au meurtre, en fait, au premier degré de Picton. Et je vous rappelle, c'est arrivé en mai 2024 au pénitencier à sécurité maximale. Ça aussi, on peut se poser des questions. Pourquoi à Port-Cartier dans un pénitencier à sécurité maximale, on a réussi à tuer un des pires meurtriers de l'histoire, là. Mais bon. Il dit « La victime a commis les pires atrocités qu'une personne peut commettre envers d'autres. Cependant, elle avait le droit de purger sa peine dans un centre de détention en toute sécurité. » Le juge Jean-Louis Lemay au Palais de justice de Sept-Îles a prononcé ces mots-là. Écoute, j'irai pas dans tous les détails parce que ça me fait mal personnellement, mais je vous rappelle que c'est avec un manche à balai qu'on a fait des sévices envers Robert Picton et on a fait ça d'une manière très violente, trouée de plein de coups, entre autres à la tête. Ils ont même essayé d'envoyer, pendant que ça se passait, les gardiens de prison, un gaz à l'intérieur de la pièce pour faire reculer Charret, donc le présumé assassin. Je dis présumé, mais il a plaidé coupable. Et le détenu s'est ressaisi, puis c'est à ce moment-là qu'il a continué quand même à fesser, ruer de coups Robert Picton, qui s'est ramassé à l'hôpital ici à Québec, rappelez-vous. Donc, il y a des gens aussi qui étaient mal à l'aise de soigner Picton.
Robert
ça avait
Picton,
sorti dans l'actualité. Mais bon, on a eu témoignage du meurtrier. Tout ça est étrange, mais tout ça attire le genre d'attention étrange qu'on a, le voyeurisme personnel dans ce genre d'histoire-là. On en a parlé, vous allez pouvoir reprendre l'entrevue avec Maïté Blanchette-Vézina sur le site de blvd.fm, mais François Legault a mis de côté la controversée réforme du régime forestier. On vient de la recevoir sur nos ondes. Si on traverse à la SAAQ Click, ben oui, c'est encore en branle tout ça. On est encore dans la commission Galland. On dit que c'était à la base un logiciel de gestion de pièces d'entrepôt. Alors, canevas de base pour la plateforme, c'était ça. Ça n'avait rien à voir avec la gestion des usagers de la route. C'était plutôt ce logiciel de pièces d'entrepôt. Et on a affirmé ça dans un témoignage. C'est l'ex-président de la firme informatique LGS, Michel Dumas, qui le fait. On a dit que les employés avaient la tâche d'adapter ce logiciel-là. Est-ce que c'est pour ça que ça a failli? Je ne sais pas. Mais on continue d'en parler à la commission Galland. Et on fait un petit tour du côté de nos cousins français. On fait un petit tour aussi dans l'actualité internationale parce qu'il n'y a pas un média qui ne le rapporte pas ce matin. C'est énorme comme nouvelle. Condamné l'ex-président Nicolas Sarkozy
à la prison. Ça, c'est une première en France, oui. On s'entend, mais c'est par rapport au financement libyen. Donc, l'ancien président français Nicolas Sarkozy, vous avez bien entendu, a été lourdement condamné. C'est 5 ans de prison pour avoir laissé ses proches démarcher la Libye de Muammar Kadhafi afin d'obtenir un financement illégal pour sa campagne présidentielle qui avait été victorieuse, je vous rappelle, en 2007. Il va être bientôt incarcéré. Vraiment une suite et une histoire qu'on va suivre assidûment.
Merci beaucoup, Pascal. CV, on passe au...
Le caucus. Le caucus. 102-1. Voici Antonine Iaccarini.
Le caucus avec Antonine Iaccarini. On l'avait amorcé après l'entrevue de Maïté Blanchette-Vézina. D'ailleurs, François Legault est en train de parler à la Fédération québécoise des municipalités. Antonine, je vais commencer avec un extrait de Marc Rangé, notre spécialiste en relations syndicales. Ça date du mois d'avril dernier. On en a parlé plusieurs fois avec Marc Rangé du dossier Poste Canada, mais c'est encore d'actualité. Écoute bien ça.
Ça va pas bien. Puis les deux parties, là, je pense qu'ils réalisent pas, ils s'en vont dans le mur. Ils sont déjà le nez dans le mur, puis ils s'en vont dans le mur, parce que là, à chaque jour qui passe, la concurrence prend davantage de terrain. Les gens sont en train de prendre des décisions pour s'en aller vers les envois électroniques. De plus en plus, ceux qui ne l'ont pas fait, pour ne plus être vulnérables. Y a-t-il quelqu'un dans ce conflit-là qui est capable de réaliser ce qui est en train de se passer? Incroyable.
Y a-t-il quelqu'un qui le réalise, Antonine, maintenant, au mois de septembre?
Bien, on dirait que oui, là.
Hein? Enfin?
Mieux vaut tard que jamais, Joël Lightbound. OK, on vient juste un peu en arrière.
Ben oui,
c'est super important ce que disait Marc, parce que c'est vrai que du côté des deux parties, on est dans une affaire de relations de travail, mais ça va beaucoup plus loin que ça. C'est des négociations qui ont commencé pour renouveler les conventions collectives en 2023. Il y a eu, depuis ce temps-là, deux grèves, dont une juste avant Noël, on se rappelle. Puis ça a terminé par quoi? Par le gouvernement qui s'en mêle, qui dit là, on retourne au travail. Ça règle rien hein, quand on fait ça. Mais c'est juste que des fois, il y a des enjeux économiques trop importants. Donc, récemment, on entendait, bon, du côté des syndicats, qu'on allait recommencer les moyens de pression. À chaque fois qu'on fait des moyens de pression, puis c'est ça à quoi Marc faisait référence, c'est qu'on empire la situation. Parce que
clairement,
là, tu décroches. Toi, tu as une PME, il faut que tu te fies sur quelque chose pour envoyer tes colis. Puis Poste Canada est en grève à tout bout de champ.
Donc, on s'entend que la grève du mois de décembre, ça a fait chuter le chiffre d'affaires de façon phénoménale.
Donc on est dans une espèce de spirale, dans une espèce de servicieux. Des déficits dans les dernières années de, en moyenne, 800 millions par année. C'est complètement fou, là.
800 millions par année.
Ça n'a pas de bon sens. C'est complètement fou.
Donc, c'est une entreprise privée. Les clés sont dans la porte. Puis, il n'y a même plus de syndicats qui disent « Je veux des meilleures conditions de travail. » Vous avez tout perdu votre emploi.
Non, non. Sans vos impôts, ça n'existe plus, là, cette organisation-là. Les employés sonnent l'alarme depuis longtemps aussi sur plusieurs choses. Il y a certaines clés qui sont de ce côté-là, mais ce n'est pas seulement une question, évidemment, d'organisation du travail. C'est vraiment de revoir en profondeur la manière de distribuer le courrier. Il y a des recommandations qui ont été rendues publiques au mois de mai dernier, parce qu'à un moment donné, après la grève, évidemment, là, on s'est dit, là, à un moment donné, il y a quelqu'un qui va proposer des solutions. Il y a quelqu'un qui a été mandaté, il y a une commission qui a fait des recommandations. Il y en a plusieurs. Enfin, donc, je dois faire un mea culpa, Jeff, parce qu'en fin de semaine, j'étais dans une autre radio, dans une autre région. Et je faisais preuve de beaucoup de sarcasme parce que je disais, on parlait de ce qui allait s'en venir dans les prochains jours sur la scène politique. Puis je dis, ben qui sait, peut-être une réforme de Poste Canada. On riait parce qu'on se disait, ben, ça arrive jamais finalement. Mm-hmm. Est-ce que vous vous souvenez d'une campagne électorale où on vous a proposé une réforme de Poste Canada? Il y en a une.
Oui. Laquelle?
OK, mais minuscule.
Vas-y
c'est
donc.
Quand les conservateurs de Harper avaient proposé les boîtes postales, puis ça avait fait grand scandale.
Oui, c'est vrai, parce
j'avais
que
complètement
là,
oublié.
Va falloir que je sorte de chez nous
pour aller
marcher,
chercher mes lettres.
Pour aller chercher mon courrier.
Denis Coderre avait enfilé son kit, avait pris sa, je sais pas comment on appelle ça, mais l'affaire qui brise la dalle de béton, là, puis il était allé démolir une dalle de béton. Ça, là, c'est la proposition la plus concrète qu'on a eue.
On était à quelle année déjà?
2021, quelque chose de même.
Mais là, imagine...
Non, non, non. non, c'est bien avant ça. 2015.
Mais là, 2015. C'est la proposition la plus concrète qu'on a eue. Depuis ce temps-là, Post Canada ne fait pas de livraison de fin de semaine.
Non.
Est-ce que, parce que moi, Val, elle commande des colis comme à la
Amazon
cuisine.
Amazon, ça fin de semaine, fait que, pas Post Canada.
Exactement, fait que pas Post Canada. Pas de soir non plus, j'imagine. Là, la semaine, là, ça pourrait être un petit peu trop dérangeant pour les travailleurs syndiqués. Fait que, bref, on n'est pas pantoute à jour. Là.
Non, puis il y avait notamment des limitations pour embaucher des travailleurs à temps partiel. Donc ça, évidemment, oui, ça te donne moins d'agilité. Après ça, il y a un moratoire sur la fermeture des bureaux de poste. Donc, Post Canada n'avait pas le droit de fermer des bureaux de poste en région. Donc, il y avait toutes sortes d'affaires comme ça qui avaient été faites, du patchage, des plasters un peu partout, des affaires très politiques aussi qu'on annonce là, tout à coup, là, pour, parce qu'il y a de quoi dans le journal, mm-hmm. tu sais, comme ça arrive tellement souvent.
On n'a jamais pris le temps vraiment de se déposer puis de dire, OK, comment on fait une réforme en grandeur de Post Canada? On a juste essayé de
pelleter par en c'est avant, là, soyons honnêtes. Et c'est le cas de plein de choses au fédéral et au provincial des fois mm-hmm. aussi, mais je veux quand même prendre le temps. Le système de paie Phoenix, toujours pas réglé.
Terrible, ça. Il y a des familles qui attendent. Hein?
C'est terrible. Après ça, on a eu la crise des passeports. Le ministère de l'Immigration du Canada, c'est une catastrophe. On entend régulièrement des choses dans les médias, des dossiers qui sont perdus, des délais qui n'ont pas de bon sens. Il y a vraiment un travail à faire du côté de l'appareil gouvernemental. On sent une volonté chez Mark Carney. C'est notamment le travail de Joël Lightbound.
Oui.
Et là, pour ce qui concerne Post Canada, cet après-midi, il y a un brefage technique et une annonce par la suite de Joël Lightbound, notre nouveau ministre qui est en charge là, de réformer un peu l'administration fédérale et devrait annoncer une série de mesures. On parle vraiment d'une réforme en profondeur. Donc là, on ne parle pas de patchage puis de petites mesures.
Tu t'attends à quoi?
Ben, notamment la question de la distribution du courrier. Moi, je pense qu'on va revoir ça de manière très, très vaste. Ça peut aussi être le modèle d'affaires, c'est-à-dire qu'il y a certains services que Post Canada pourrait ne plus offrir du tout. Les boîtes postales, les amis, là, ça risque d'arriver aussi. Donc, la livraison de courrier à vos portes à tous les jours, il va falloir s'organiser autrement, j'ai l'impression. Parce
aller
que
dans
ne
des endroits,
plus.
Peut-être, ou des trucs comme ça.
Des trucs comme ça. Donc, probablement aussi qu'il va y avoir des affaires qui vont concerner les conditions de travail. Fait que là, il va y avoir comme une dynamique avec la négociation de conventions collectives. Aussi, ça complique les choses. Hein. Tu ne peux pas annoncer n'importe quoi comme ça, il y a une négo. Mais la question des employés à temps partiel, il va falloir l'aborder.
Il va falloir l'adresser, oh oui. Ça me fait penser, puis là, je fais une parenthèse, mais les employés à temps partiel, c'est le même combat pour les sociétés de transport.
Absolument.
Où on voudrait des chauffeurs à temps partiel pour faire de la fin de semaine, du soir, on est obligé d'engager à temps plein. Puis là, ben, ça fait en sorte que les candidats sont moins nombreux.
Ben oui.
Les candidats, en guillemets, sont moins performants.
Ou des fois, tu payes des gens à rien faire. Quand les heures de pointe, entre les deux heures de pointe, tu as des chauffeurs qui sont à temps
fait
plein.
Que c'est le même problème pour Post Canada. Tu sauves énormément dans les coûts de formation aussi si tu vas chercher du personnel à temps partiel parce que souvent, ça va être de tes retraités qui vont dire, hey, ben oui, moi, je continuerai un petit 20 heures par semaine.
Tu as tellement raison. Puis, tu sais, je pense aussi qu'il faut moduler nos attentes parce que ça ne va pas se régler l'année prochaine.
Ah oh non, c'est clair.
Okay, ça va être long, là, mais au moins, le travail est commencé. Mais la réalité, c'est que ça aurait dû être commencé il y a 15 ans, ce travail-là.
Ouais.
Ils l'ont échappé. Là.
Ouais. Post Canada, je te pose une question, puis là, peut-être que tu n'as pas la réponse, mais si ça n'existait plus, y aurait-tu une compagnie privée pour le reprendre?
La réponse est oui, parce que ça existe ailleurs dans le monde. Mm-hmm. C'est sûr, c'est moins dans notre culture au Canada de déléguer autant au privé. L'affaire, c'est que Post Canada assure certaines choses qui, je pense que c'est rassurant, parce que il y a un service essentiel aussi à travers ça, là, qui, notamment les transports de prélèvement. Il y a des choses dans le système de santé qui sont envoyées par la poste. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas trouver une autre solution.
Ben non.
Mais il y a ça en ce moment qui est une problématique. Tout ce qui est courrier plus officiel. Donc, moi, je pense que tout est possible. Mais je pense que la privatisation complète, on n'a pas besoin de se rendre jusque-là, en fait, pour l'instant. C'est juste qu'on n'a jamais fait l'effort de faire une réforme dans le cadre de garder ça public. Donc, je pense qu'on doit donner la chance aux coureurs. Puis je comprends les gens qui demandent la privatisation, parce que c'est tellement un fiasco depuis des années, puis le gouvernement ne s'en occupe pas, que tu te dis, bon, mais si vous ne voulez pas vous en occuper, bon, arrêtez de vous en occuper.
Non, mais je suis d'accord avec toi, donner la chance à la réforme en premier, mais c'est juste parce que je réfléchissais, puis je me disais, OK, le gouvernement fédéral leur a prêté 1 milliard. Ils sont en déficit de 800 millions par année. Je me disais, coudonc, crime, on va engager une entreprise privée à ce prix-là, puis on va arrêter d'avoir ce fiasco-là dans nos jambes.
Oui, mais bon, l'environnement compétitif, concurrentiel a tellement changé que de toute façon, ça ne pourra plus être ce que c'était. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas certaines choses qui doivent être assurées par le gouvernement? D'ailleurs, tu sais, j'étais allée faire un renouvellement de passeport pour un de mes enfants il y a quelques jours, puis c'est pas ce Canada qui a envoyé les passeports, mais là, il y a une grève qui s'en vient. Et là, la madame, elle me disait, ça se peut que ce soit plus roulettaire, là, ça dépend de... T'sais, puis je me disais, ben ouais, tu sais, on n'est même pas capable de se fier sur notre service de poste pour envoyer nos passeports.
Ah non, c'est Caroline, ça va pas. Alors que c'est dans le même appareil gouvernemental. Parle-moi d'autruche. Tu m'as dit, Jeff, je veux te parler d'autruche. Qu'est-ce qui se passe? On n'a pas d'autruche au Québec, pourtant, là, à part au parc Safari.
Ah, oui, il y en a en captivité, là.
Mais... Oui, c'est ça.
Mais d'abord, j'aimerais avoir votre avis sur les autruches. Est-ce que c'est un animal que vous appréciez?
Ah non, j'ai les trop hypocrites.
Ah oui, les autruches, je les déteste.
Hey, on est trois.
Tu les aimes pas non plus?
Hey, moi, j'aime beaucoup les animaux dans
ça
la vie.
Ça pique tout le temps, l'autruche.
Mais ça me fait peur. Tu sais, les vélociraptors dans Jurassic Park,
oui.
Moi, c'est le même sentiment que ça me
t'as
donne.
Raison.
Ça n'a pas l'air fiable, c'est écrit dans leur face.
Ils vont te courir, puis ils vont te piquer le dos.
Et puis ça court vite, là.
Mon plus vieux, Elliot, il déteste les autruches parce qu'il est déjà piqué à mort par un safari quand il voulait
ça mord tout le temps. Il n'y a jamais rien de le fun qui s'est passé et de
mon
doux avec
une autruche. Mon fils s'est fait mordre par une autruche. Oui. On a une vidéo célèbre, parce qu'en plus, il s'était fait mordre le majeur. Fait qu'on a une vidéo où est-ce qu'on dit qu'est-ce qui s'est passé, puis là, il dit une autruche m'a mordu le doigt au parc safari. Puis après ça, on dit monte ton doigt. Puis là, il fait comme un finger, on rit. Bon, c'est une vidéo classique dans ma famille. Mais tu sais, pour dire que la haine des autruches est généralisée chez nous.
Vraiment.
Cela dit, il y a des gens qui aiment. Beaucoup.
418-971-1021. Oui ou non pour les autruches?
Non, c'est comme les dindes. C'est comme les dindes sauvages, même catégorie. Il n'y en a pas une qui nous a prouvé qu'il n'y avait pas le diable dans l'âme.
Faites juste répondre oui ou non pour les autruches.
Parfait. Donc, j'ai hâte de savoir comment les auditeurs se sentent par rapport aux autruches. Cela dit, il y a des gens en ce moment qui se sont mobilisés pour sauver un paquet d'autruches. Ça se passe en Colombie-Britannique.
Okay.
Des autruches d'élevage, parce qu'effectivement, elles ne vivent pas à l'état sauvage au Canada, qui ont pogné la grippe aviaire l'hiver dernier. Mmh. Okay? Ouais. Donc, dans un cheptel, il y en a 69 qui sont mortes, mais il en reste environ 400 qui sont toujours en vie. Les propriétaires de la ferme s'appellent...
Les courageux.
Les courageuses, même. Karen et Cathy, Karen et Katie, qui affirment que les animaux vont bien maintenant. Okay? Elles ne sont pas malades, mm-hmm. ces autruches-là. Mais l'Agence canadienne d'inspection des aliments insiste pour éliminer tout le cheptel.
On prend pas de chance.
C'est principe de précaution. La grippe aviaire, c'est quelque chose qui préoccupe beaucoup les autorités sanitaires au Canada. Les dames ont contesté de manière judiciaire là, cette décision-là. Elles ont perdu plusieurs étapes, mais c'est rendu dans la Cour suprême. Donc là, la Cour suprême, pendant qu'elle va prendre cette décision-là sur est-ce que c'est le principe de précaution ou est-ce qu'on devrait plutôt y aller à la pièce puis étudier davantage chacune des autruches.
OK, à la pièce étant décision. À l'autruche.
À l'autruche. Okay. Une autruche à la fois.
Donc, on ne joue pas à l'autruche ici.
On ne veut les pas sculpter? Se mettre la tête dans le sable. On teste chacune des autruches et ça soulève les passions, OK, et l'indignation.
Et les l'indifférence au 88-971-101 aussi, parce que la majorité des réponses, c'est dans l'assiette qu'ils
veulent.
Voilà. Donc, mais vous n'êtes pas la majorité. En fait, vous n'êtes pas la totalité des gens, parce qu'il y a des gens qui sont très, très indignés. Ils écrivent à tous les députés fédéraux en ce moment. OK.
Pour sauver les autruches.
Pour sauver. Mais c'est comme les chevreuils de Longueuil.
Oui, ouais,
t'as raison.
Tellement
c'est un bon
parallèle. Ça en prend juste une petite gang pour vraiment être intense et tout ça. Puis il y a une espèce de mobilisation autour de ça, tellement que hier, il y a un député qui a posé une question en chambre sur les autruches. Là.
Mais moi, je trouve ça intéressant parce que c'est vrai qu'on est dans une ère en taux, puis tu sais, je pense que ça peut devenir de plus en plus politique, ces choses-là, parce qu'il y a un grand regroupement de gens qui sont à la défense des droits des animaux.
Absolument.
Comme nous autres, on ne va pas nous tuer si on pogne, je ne sais pas.
Eux, ça les laisse pas indifférents. Donc, il y a eu une question hier, le Parti conservateur s'est finalement résolu. Moi, ça avait l'air de... Tu sais, c'est genre question 42 du line-up de questions, de période de questions, qui a fini par poser une question, je pense, pour calmer les gens. Mais je veux juste vous dire que cette saga-là est même traversée de l'autre côté de la frontière, le ministre de la Santé, le secrétaire à la Santé, RFK Jr.
Robert Kennedy Jr.
s'en est mêlé. Il lui demande à ce que les animaux soient épargnés et étudiés.
Ben voyons donc.
De l'ingérence américaine dans
nos autruches. Mais attends une minute, le RFK, là, on parle du même gars qui associe Tinéna Lincotis.
Oui.
On parle du même gars qu'on n'a pas besoin de vacciner le monde en Floride.
Mais il faut sauver les autruches.
Absolument. Hey, deux pas, deux mesures aux États-Unis.
Mais en même temps, c'est vrai que si c'était ma ferme, bon, j'aurais jamais une ferme d'autruches. Mais mettons que c'est une ferme d'alpaga, là, un animal que je trouve plus cute. ben ça c'est sûr que ça me ferait suer en tabarouette qu'on me dise là, on va tuer tes autruches qui me semblent en parfaite mes alpagas, pas dire, qui te semblent en parfaite santé. Ouais. Ça doit être difficile humainement. Je veux quand même exprimer mon empathie envers les dames, mais ça m'a fait rire quand j'ai entendu une question sur ces autruches à la Chambre des communes.
Mais hein, j'adore quand tu nous appelles.
C'est jeudi. Moi, c'est mon jeudredi.
Oui, c'est vrai, c'est ton jeudredi. Hey, parlant de jeudredi, je veux juste mentionner avant notre prochaine invitée, Pascal CV, c'est ta dernière journée avant que tu nous quittes pour le Kilimanjaro. On en parle tantôt en fin d'émission, c'est certain. Mais Antonine va être présente à l'émission de midi à 13h pour les trois prochaines semaines pendant que tu ne seras pas là.
Midi à 13h.
Ouais, une pour heure. La première heure.
Super. Voilà. Puis moi, quand je reviens, elle ne fait pas ça?
Ouais, non.
Non. C'est assez. Ça va être assez.
Ben,
merci de frapper en relève. Yes. Et assurément, je suis jalouse de tous les auditeurs et de toi, Jeff. Mais Mathias sera là aussi. Hein,
exactement. Mathias Turcotte également va être là. C'est lui qui va être avec moi demain, d'ailleurs. Donc, Antonine, la prochaine fois qu'on se voit lundi prochain, ben, c'est pour une heure. Tu vas être pogné avec moi une heure.
Bon. Profitez-en.
Yes, Seigneur. Yes. Merci, Anto. Passe une belle fin de journée. Salut. On a au bout du fil, comme je vous le disais tout à l'heure, le protecteur de l'intégrité en loisirs et en sport, M. Hugo Lafontaine. Monsieur Lafontaine, comment allez-vous? Monsieur Lafontaine, vous êtes bien là?
On est bien là, oui.
Parfait. Ça va bien, Monsieur Lafontaine?
Ça va bien, vous, Monsieur Fortin?
Oui, ça va super bien. Merci d'avoir répondu à l'appel. 222 plaintes et signalements en l'espace de 3 mois dans le sport. Est-ce que notre sport est malade au Québec?
Ben, c'est sûr qu'il y a des objets de préoccupation, effectivement. Là, tout ce qui a trait à la culture de la performance, de la compétition, l'approche de la compétition, ça amène des comportements qui sont problématiques à certains égards. C'est sûr que nous, ce qu'on voit, c'est le moins beau, qui font l'objet de plaintes ou de signalements, mais en même temps, je peux pas m'empêcher de passer sous silence aussi qu'il y a quand même des acteurs très mobilisés là dans le milieu qui prennent ça très au sérieux. Puis c'est aussi la raison pour laquelle un organisme comme le protecteur de l'intégrité en loisirs et en sport a été créé en juin. Là. Donc, il y a certainement matière à amélioration à plusieurs égards. Mmh. Il y a quand même aussi beaucoup de positifs, là, pour le mentionner en même temps aussi. Là.
Vous allez comprendre notre question, c'est certain. On jasait de ça, les trois ensemble, avec Antonine et Karine aussi il y a quelques instants. Mais on se demande, est-ce que c'était nécessaire à ce point-là, dans le sens où est-ce que la société a changé au point où il faut mettre de nouvelles institutions, de nouvelles organisations pour gérer même l'aspect social dans nos sports parce que ça déborde trop? Qu'est-ce qui s'est perdu à travers le temps pour être rendu là?
Il y avait un mécanisme de traitement de plaintes qui existait auparavant, ça s'appelait l'officier des plaintes. Puis là, il y avait certaines disons critiques qui étaient adressées à ce mécanisme-là. Donc c'est sûr que nous, la nature des plaintes qu'on reçoit, la gravité des allégations qu'on reçoit, le nombre de plaintes qu'on reçoit, l'ordre de grandeur, vous avez mentionné au début de notre entretien, je pense que nous démontre bien là, la pertinence d'un organisme comme celui-là. Ça se fait pas tout seul, remarquez, là, le protecteur de l'intégrité travaille pas en vase clos, on doit collaborer avec des acteurs qui sont en prévention, qui font de la formation, par exemple. Tout ne se règle pas, on s'entend bien, là, par le traitement des plaintes ou des signalements. Mais en même temps, d'avoir un recours impartial, neutre, qui fait la lumière sur les situations, ben, c'est un service public, je pense que c'est un pas en avant, certainement, là.
Monsieur Lafontaine, quelles sont les principales plaintes que vous recevez? Est-ce que c'est, par exemple, des entraîneurs qui crient trop fort après les enfants?
Le motif de plainte principal, c'est effectivement la violence psychologique qui peut prendre la forme de cris, d'humiliation, de ridiculiser, d'humilier des personnes, d'intimider. Et on s'entend, il y a un seuil de gravité là pour traiter, pour que nous commencions à traiter une plainte. Donc, c'est pas un événement isolé d'un cri une fois. Là. Puis ça veut pas dire qu'il faut pas traiter ça.
Donc, ça va être un comportement répétitif d'un entraîneur, c'est ce que je comprends?
Exactement. À moins que le comportement isolé soit d'une gravité telle qu'il faille intervenir, là, auquel cas on les traite. Mais normalement, des cas de cris, d'humiliation, ça va se reproduire sur une période, une certaine période donnée. On constate qu'il n'y a pas d'actions nécessairement qui sont prises pour régler la situation. Donc, c'est le motif principal de plainte. Il y a tous les cas de négligence aussi, là, dépôt de fournir des soins, inciter une personne à retourner au jeu alors que des avis médicaux relatifs à une commotion cérébrale. Les cas de représailles aussi, des gens qui contestent des situations, qui contestent des façons de faire, puis qui se font mettre de côté, qui se font mettre qui subissent des menaces. Ce sont des situations là qui sont portées à notre attention. On s'entend, on est là depuis 3 mois, un peu plus de 3 mois. Donc, tout ce que je vous dis là, c'est quand même des constats préliminaires, là, mais c'est ce qu'on reçoit pour l'instant. Mmh.
Est-ce que c'est un problème de nouvelle génération? C'est-tu générationnel dans le sens... un problème, le mot est mal utilisé, mais dans le sens où avant, autre temps, autre mœurs, c'était plus rough, on avait une façon de faire de la pédagogie qui était complètement différente. Je pense même pas que le mot existait tant que ça. La manière de supporter aussi les jeunes, c'était plus à la dure dans certains cas. Il y a des générations qui s'affrontent sur le plan idéologique là-dessus en se disant « Ben non, nous autres, on était performants parce qu'on nous poussait » et d'autres qui disent « Ben non, ben nous, on n'est pas performants parce que vous nous poussez trop. » C'est-tu un problème générationnel?
Ben, tu sais, je pense qu'il y a une tolérance à la violence qui a évolué dans le temps avec raison. Je pense que c'est une bonne chose. Ce que je peux vous dire, moi, ce qu'on constate, c'est tout ce qui a trait au rapport à la compétition, au rapport à la performance. C'est questionnable. Là. Il y a des gens qui perdent, pas tout le monde, je veux pas faire du mur à mur aujourd'hui, mais il y a des gens qui pratiquent des sports ou des loisirs qui perdent de vue un peu là, les finalités qui devraient être le sport, le plaisir, la coopération. Donc ça, c'est remis en question, c'est mis de l'avant comme préoccupation, puis ça fait en sorte qu'il y a des plaintes qui sont projetées. Puis je vous dis que les plaintes que nous recevons puis que nous décidons de traiter, c'est vraiment, ça a des conséquences. Là. C'est des gens qui subissent, qui peuvent subir des séquelles une vie durant, donc on se sent, il n'y a pas de doute là, qu'on l'équipe que j'ai mis en place dans les derniers mois avec mes collègues, on se sent très utile. C'est toute la question de l'escalade des tensions aussi, là, la capacité à désamorcer, à apaiser des conflits. Il y a des gens qui mettent de l'huile sur le feu, là. Il y a des conflits, des désaccords qui dégénèrent et il y a certains de nos concitoyens qui ont de la difficulté effectivement à régler leurs conflits avec les entraîneurs, avec d'autres athlètes, avec des membres d'un CA, par exemple.
J'ai une question en deux temps pour vous. Est-ce que vous traitez autant le milieu civil, fédération, que le milieu scolaire? Et si oui, est-ce qu'il y a beaucoup de plaintes dans le milieu scolaire?
J'ai pas de statistiques précises sur le milieu scolaire, mais je peux vous dire certainement que nous en traitons. Donc, tout ce qui est sport-études, effectivement, nous en recevons dans le milieu scolaire. Dans le milieu de l'enseignement supérieur aussi, c'est possible. Dans ces cas-là, il y a des zones de croisement. Évidemment, on ne veut pas faire double emploi. Dans le milieu scolaire au Québec, il y a un protecteur de l'élève, donc une institution qui porte le même premier mot, là, donc un autre protecteur. Donc, évidemment, on ne veut pas faire double emploi. Si c'est en milieu scolaire, on s'arrime avec le protecteur de l'élève pour ne pas travailler en double puis être en complémentarité.
Constatez-vous qu'il y a des cas de vengeance? C'est exemple, un parent qui va se venger parce que son jeune n'a pas été bien classé ou que c'est la deuxième année de suite que ce coach-là coach mon jeune puis je le vois pas progresser assez puis moi, je le vois dans la Ligue nationale de hockey.
Ben, c'est sûr que les cas, si la plainte qu'on nous formule, c'est le fait qu'une personne n'a pas été acceptée dans une équipe ou à un certain niveau dans une ligue, a priori formulée comme ça, on ne le traitera pas. Il n'y a pas d'allégation là, d'atteinte à l'intégrité. Mais une situation, on prend la même plainte actuelle que vous abordez, ça peut dégénérer si la personne le prend mal puis commence à avoir un comportement harcelant, là, qui peuvent prendre la forme de différentes façons, là. Donc, ça peut effectivement dégénérer à travers des menaces. Puis c'est un peu ce que je vous parlais tantôt avec les représailles. Là. C'est un peu ce genre de situation-là qu'on reçoit. Une situation qui peut générer une insatisfaction au début. Puis dans la façon de réagir face à l'insatisfaction, ben, malheureusement, il y a des cas où on franchit la ligne rouge. Puis nous, on considère que, ben, il y a potentiellement une atteinte à l'intégrité. J'en profite pour dire que nous, on est un organisme tout à fait impartial, donc on fait des enquêtes, puis on n'est pas l'avocat des personnes plaignantes qui viennent nous voir. On fait la lumière sur la situation par un processus rigoureux d'enquête. Donc nos conclusions, on les émet après là un processus d'enquête la plupart du temps.
Petite question, je pensais à ma dernière par rapport à ça, mais c'est-tu plus des jeunes ou des adultes qui le réclamaient?
Des jeunes ou des adultes qui, pardon?
Qui réclamaient ce genre de mise en place-là?
Ben, en ce moment, dans nos données, c'est sûr que les personnes mineures qui peuvent avoir une certaine vulnérabilité plus importante sont davantage présentes dans nos plaintes, c'est-à-dire des personnes comme qui vivent des atteintes à leur intégrité, effectivement. Mais nous pouvons intervenir concernant le sport et le loisir jeunes et moins jeunes également. Donc, le loisir, ça inclut les scouts, mais ça inclut potentiellement le Scrabble, l'ornithologie, le loisir culturel. Ils sont moins présents. Là, pour l'instant, le secteur du loisir, c'est présent environ à 5 % là, dans nos plaintes. On s'entend que tout ça, ce sont des données tout de même préliminaires. Là. J'aurai l'occasion de faire un rapport annuel d'activité annuel. Donc, d'ici dans un an, là, au mois de juin, on sera en mesure de faire un bilan complet. Là. Donc, on a seulement 3 mois derrière nous.
Monsieur Lafontaine, merci infiniment d'avoir participé à l'émission On en jase aujourd'hui. Continuez votre excellent travail et au plaisir de se reparler.
Merci, Monsieur Martin. Au revoir.
Merci, c'était Hugo Lafontaine, nouveau protecteur de l'intégrité en loisirs et en sport. Voici un bon texto qui est rentré ici, Pascal, qui dit « Hey, mon gars a commencé le hockey dans le MAG. » Donc, le MAG, c'est 4-5 ans.
Okay.
Et quand un petit garçon qui avait de la difficulté à se relever pleurait pour voir ses parents, le coach lui a dit « Hey, au hockey, on pleure pas. »
Ah ouais, hein.
Fait que tu sais, quand on parle de changement de mentalité, de s'adapter, et c'est vrai qu'il faut s'adapter à la nouvelle génération. Puis honnêtement, je pense que des adaptations qui sont positives, il faut beaucoup plus jouer psychologique, accompagnement en tant qu'entraîneur, qu'essayer de casser les jeunes.
Je me trompe-tu, parce que toi, tu as été là-dedans quand même, veux pas, là.
Oui.
Je me trompe-tu de dire qu'il y a aussi chaque parcours et chaque personne est différente dans la motivation. Tu sais, il y en a qui ça va être dans la douceur, qui vont plus être performants. Il y en a qui ça va être dans l'esprit mental. D'autres, c'est comme go, go. Go,
oh,
on planche.
Oui.
Puis on le voit dans les sports, mais on le voit au personnel aussi, là, dans vos relations interpersonnelles. Des fois, peut-être, ça clash avec quelqu'un parce que l'attitude est différente. Puis il y en a qui vont être bien plus motivés par quelque chose d'un peu plus.
T'as tellement raison. T'sais, moi, je coach au hockey. Puis au début de l'année, là, justement, on a 4-5 pratiques avec notre équipe. Puis les coachs, moi, je suis toujours au coach. OK, faut regarder c'est quoi la nature humaine de ce joueur-là.
Bon,
parce qu'il faut savoir comment l'aborder.
Dans le fond, toi, tu coaches de façon un peu personnalisée.
Exactement.
En plus d'avoir ta façon, plus
oui,
de gang.
C'est ça, parce qu'il y en a là, qu'il va falloir que tu dises « OK, là, c'est assez, reviens droite. » Là, bing, il revient droite. Parce que si tu essaies...
Ça ne l'atteint pas
exactement,
mentalement.
Parce que si tu essaies de le flatter et de dire « Hey, mon petit loup, fais attention à ça. » Il va continuer. T'sais, il a comme besoin de... À un moment donné, que le déclic se fasse. Il y en a d'autres, s'ils jouent un mauvais match, bien là, il faut que tu les abordes. Hey, OK, j'ai confiance en toi, moi j'ai confiance. T'sais, tu vas plus être le bon père de famille. Il y en a d'autres qui connaissent un mauvais match, tu vas leur dire hey, come on, man, t'es capable de mieux. Bang, tu y tapes dans la main, puis là, boum, il est reparti.
J'ai une question par rapport aux jeunes que tu as coachés. As-tu déjà que tu as senti que tu es allé trop loin, puis te l'ont dit,
vraiment,
ils ont été vocaux
vraiment,
avec toi?
Vraiment, vraiment, vraiment. Ah oh, oui. C'est arrivé l'année passée. J'ai fait une mauvaise intervention l'année passée. Je me suis excusé d'ailleurs aux joueurs. J'ai fait une mauvaise intervention.
Wow.
On avait été indisciplinés dans le match. Ça m'avait frustré.
Ouais, je veux dire, tu as ta vie extérieure aussi.
Exactement.
Des fois, on est un peu sensible à ça.
Je suis arrivé dans le vestiaire, j'ai fait une intervention qui n'était pas la bonne. Puis j'ai un joueur qui est sorti du vestiaire qui a dit « Hey coach, je pense que tu es allé trop loin pour telle, telle, telle raison. »
Il avait quel âge?
Il avait 16 ans.
Extraordinaire. Puis,
ouais,
ben, ta réaction aussi.
Ouais,
hein?
Puis j'ai dit « Sais-tu quoi? » J'ai dit « T'as raison. » J'ai dit « J'ai le feeling que je suis allé trop loin moi aussi. » Je suis rentré dans la chambre. J'ai dit au gars « Hey, je m'excuse. C'était vraiment pas correct. Je suis allé trop loin dans le blâme sur votre indiscipline. Je comprends que vous étiez frustré pour telle, telle, telle raison. Regardez, on tourne la page, on s'en va par en avant.
Je trouve ça merveilleux. Puis ça me fait penser à une anecdote que quelqu'un qui est en performance, qui travaille professionnellement maintenant dans un sport haut calibre à l'international, puis lui, il me racontait que quand il a commencé ici, jeune, il était souvent avec un autre jeune. Puis il y avait un coach pour les deux. Puis il allait en compétition, puis ça, les trois souvent ensemble. Puis le coach était extrêmement raide et dur à l'endroit de la personne dont je te parle.
Oui.
Beaucoup plus chaleureux et
avec
autre
l'autre.
Avec l'autre. Puis à un moment donné, celui qui recevait un petit peu plus de raideur,
un peu plus de blâme,
a
là.
Questionné son coach en disant hey, excuse, mais je dis jamais rien, sauf que pourquoi avec moi, t'es raide, t'es difficile versus l'autre. Puis il dit toi, veux-tu faire ça professionnellement? Fait qu'il a dit oui. Toi, dans le fond, c'est ton rêve d'être payé pour ton trip et ta passion. Il a dit oui. Il dit lui, non.
Non.
Lui, il ne veut pas accéder
fait que là, il
au niveau supérieur.
Pour qu'il puisse aller au niveau supérieur.
Puis,
pas toujours évident. Ça.
Mais tu sais, cette petite conversation-là
a
dénoué tous les nœuds de frustration, de différentes les deux, de distance. Ils se sont rapprochés en tant que coach. Puis tout se dit, là. Moi, je pense qu'il y a ça aussi, la communication.
Ben,
on en parle tout le temps. Mais...
Non, mais tu as tellement raison. Puis de venir pousser un jeune, de venir pousser une équipe à aller plus loin de façon un petit peu plus directive.
En expliquant,
là,
je suis directif avec vous.
Exactement, mais voici pour telle raison. Tu as raison qu'il faut que ça s'explique au début de l'année.
Que ça se nomme.
Ouais, moi, quand je coach une équipe de hockey, au début de l'année, je leur dis toujours, je n'accepte pas que dans une pratique, on ne mette pas l'effort maximal.
Donc, je suis là pour vous, je mets toute ma
puis je le fais parce que vous allez vous améliorer, on va devenir une meilleure équipe et vous allez en bénéficier. Mais oui, je vais être tanné avec vous autres, les gars, ils le savent. Fait que des fois, quand je chiffre pour dire « OK, c'est assez », là, ils disent « Ouais, c'est vrai, crime, on vient de dépasser la limite. »
Tu sais, dans les classes au secondaire, puis tout ça, je pense que ça va de soi aussi parce que des fois, il y a des profs qui vont être très autoritaires, ben pas autoritaires négatifs, mais au départ, là, vont asseoir un peu leur règlement puis leur façon de passer dans le cours. Mais ça, c'est un prof qui est déjà très friendly, puis où on va aller tester un petit peu plus les limites des fois s'il n'y a pas l'admiration ou l'affection désirée, mais... En mettant ça clair au début, pendant l'explication, ça peut sûrement aider.
Oui, puis on en revient sur une façon aussi, là, je pense, puis on termine là-dessus, d'élever nos enfants ou d'assurer une certaine
Le cadre,
autorité, cadre.
C'est difficile, ça, c'est sûr aussi.
Ouais, moi, là, je me rends compte que mes enfants, les élèves qui aiment le plus à la fin d'une année, les parents, les enseignants, je veux dire, qui aiment le plus, c'est les enseignants qui ont mis un cadre dès le départ.
Mais tu sais, ils en parlent aussi avec la jeunesse, là. Toi, là, tes enfants, ils t'ont sûrement testé puis ils te testent sûrement encore.
C'est clair.
Parce que t'es le sentiment le plus sécuritaire, la personne la plus sécuritaire autour d'eux.
Ouais.
Ils savent que tu vas toujours être là. À travers le temps, t'as démontré en tant que père que t'es abandonne pas.
C'est sûr.
Puis t'es leur filet de sécurité. Bien, c'est un peu ce qu'on voit souvent avec les enfants turbulents. Tu sais, ah, garderie, mon Dieu, c'est un ange. Et si c'est ça, plus t'arrives à la maison, deux tornades.
Qu'est-ce qui se passe?
Ils savent qu'ils peuvent te tester. Ils savent qu'ils peuvent te challenger parce que tu partiras pas.
Ah oui, c'est
puis ça, il y a comme un beau côté de la vie en disant, ah, on a créé un lien avec mon enfant, il se sent bien, versus je ramasse la tempête par exemple.
Non. Par exemple, maman, j'ai un petit côté rebelle. Des fois, elle croyait pas que je pouvais être gentil. Et c'est la vie, c'est comme ça. Je l'aime beaucoup, maman.
C'est ça. Elle aussi. Elle est encore là pour toi.
Yes. Après la pause, Rémi Villemur qui va venir nous parler. Pascal, on va parler, entre autres, là, ça vient de sortir dans la presse. La direction du REM s'excuse, mais assure être prête à affronter l'hiver. Puis pourquoi on va en parler, même si c'est à Montréal? C'est parce que le REM, c'est géré par la CDPQ Infra. Hein, ça va faire quoi, la CDPQ Infra, Québec?
On rappelle quoi, ça?
Ouais, ça va faire quoi, Québec, la CDPQ Infra, Pascal?
Peut-être un petit tramway.
Un tramway, et voilà. Donc, on parle de ça avec Rémi Villemur. Et on va parler aussi des partis politiques qui tendent toutes vers la droite présentement. Le PQ, la CAQ, on coupe partout, let's go. On s'en va vers là. C'est la discussion qu'on va avoir avec Rémi Villemur après la pause. Vous êtes à Boulevard 102.1 à l'émission On en jase.
À Boulevard 102.1.
Mais j'avoue que mettre des gants blancs pour ce genre d'exercice, c'est une idée qui ne me viendrait pas.
Jusqu'à 14h, on en jase.
L'émission On en jase avec Jeff Fortin, Pascal CV pour réagir. Et vous êtes nombreux à le faire, 418-97-1-102-1. Vous pouvez venir nous voir sur twitch.tv/BLVD/FM. On est disponible également sur l'application BLVD 102.1 via la web radio sur le BLVD.fm. Pascal, quand on dit que la meilleure place pour être aux nouvelles, c'est à l'émission On en jase, je te nomme quelques preuves présentement.
Vas-y.
T'es prête? On a parlé avec Maïté Blanchette-Vézina à midi, l'ex-ministre de la CAQ au niveau des forêts et des ressources naturelles. Ben regarde donc ça. Je lève la tête à LCN. C'est Maïté Blanchette-Vézina. Elle nous a parlé avant, LCN. On est-tu rendu sa coche à Boulevard?
Ça, c'est ta fierté.
Et allez. Voilà. Après ça, on vient de parler avec Anthony Niacarini de la réforme de Postes Canada. Je lève la tête. Joël Lightbound est en train de faire l'annonce de la réforme de Postes Canada.
Oui, en plein point de presse pour le fédéral. Oui, exact.
Yes, exactement. Il va y avoir de quoi être vraiment gros aussi à Boulevard, là. C'est le 2 octobre prochain, je pense. Un face-à-face entre deux personnes, c'est-tu bien ça?
Deux personnalités politiques. Je pense que vous l'attendez, puis ils travaillent fort. T'sais, Audrey Pinchot est là-dessus depuis le tout début de l'automne. Même pas de l'automne. Elle était là-dedans cet été.
Cet été.
T'sais, convaincre des politiciens de venir s'affronter en onde, en direct, c'est pas facile. Habituellement, on a ça à la télévision. Puis encore là, ça a été préparé. Puis je pense que pour certains politiciens, honnêtement, Jeff, j'ai pas le choix d'y aller parce que les autres y vont, mais c'est toujours extrêmement stressant.
Oui.
Ils se préparent, OK? Ils ont les questions d'avance. On veut la meilleure réponse possible pour les citoyens. Mais chose certaine, dans l'équipe du retour, il y aura un face-à-face. Un face-à-face entre les deux personnes qu'on projette comme étant la possibilité d'être la tête au municipal, à la mairie, à Québec. Donc, bien sûr, M. Marchand et M. Hamad. Donc, on est avec Bruno Marchand et Sam Hamad en face-à-face le 2 octobre prochain à 16h dans Gravel dans le retour, ici, à Boulevard 102.1. Bien sûr, Denis va animer ça. On a 5 grands thèmes, OK? Ce sont les suivants. Le premier, qui serions-nous pour ne pas le prendre, ce thème-là? Ouais. Même si vous êtes dosé, c'est un enjeu, c'est l'enjeu principal de l'élection, selon nous, le transport, la mobilité.
Ben oui.
Donc, les banlieues versus le centre-ville. L'économie est un des points cruciaux aussi. La relation avec les gouvernements, sinon on n'avance en rien, dans rien. L'itinérance et la sécurité. Mm-hmm. Et bien sûr, Québec dans 15 ans. On veut quoi pour Québec dans 15 ans?
Je l'aime, ce thème-là, Québec dans 15 ans.
C'est souvent pas très sexy. C'est souvent une des thématiques où le bas rasé n'est pas mis par les politiciens, mais c'est ce qui amène, en fait, pour toute la génération qui suit et la structure politique, beaucoup de débouchés, puis clairement une belle vision. Donc, soyez à l'écoute le 2 octobre prochain, 16h sur les ondes de boulevard pour le face-à-face.
C'est clair qu'on va être à l'écoute. On va rejoindre de ce point notre chroniqueur Rémi Villemur, animateur au 99.5 Montréal. Rémi, comment vas-tu?
Ça va bien, vous deux.
Ça va super bien. Rémi, un des thèmes, justement, du face-à-face va être le transport et la mobilité. À Québec, on est en train de concevoir un tramway. Bon, il y a encore plusieurs gens qui ne le veulent pas, mais il se construit quand même. Et le contrat a été donné à la CDPQ Infra. Et là, je regarde la une de la presse. La direction du REM s'excuse, mais assure être prête à affronter l'hiver. Rémi, c'est la CDPQ Infra, la direction du REM?
Oui, puis l'hiver dernier, il y avait eu des ratés, puis les explications qu'on donnait étaient très décevantes, voire presque humiliantes pour une organisation comme la CDPQ Infra. On disait « Ah, on n'avait pas anticipé telle affaire ». Tu sais, c'est pas une excuse que tu peux donner en matière, quand il est question de l'hiver québécois. S'il y a bien une affaire qui est prévisible, c'est bien l'hiver québécois. On sait qu'il va tomber de la neige, on sait qu'il va faire froid, on sait qu'il va y avoir du gel. Donc, on n'avait pas, et c'est normal, personne acheté cette explication-là. Là, on nous dit qu'on a fait certains apprentissages, mais on est en retard dans la livraison de certaines lignes. Ça nous rappelle quand même une seule chose, je pense, plusieurs, mais une seule qui est essentielle, c'est que quand vous vous lancez dans un grand projet, puis là, je m'adresse à n'importe qui à la maison, il faut réussir son coup.
Ouais.
Parce que si vous lancez dans l'air une promesse, si vous dites « je vais le faire », il faut le faire. Mmh. Vous êtes mieux alors, si vous n'êtes pas sûr, de ne pas vous lancer là-dedans. Parce que les gens sont exigeants. Eh bien oui, les gens, quand ils voient des millions de dollars être investis, quand ils voient des organisations qui décident de se lancer là-dedans alors qu'il est possible de faire affaire avec le secteur privé, bien on s'attend au même résultat promis par le secteur privé qui, lui, est imputable, qui, lui, doit remplir des demandes, sinon ben, la logique du marché fait en sorte qu'il n'est plus appelé.
Parce que là, il y a la branche des deux montagnes qui va être inaugurée, là, je pense, quelque part en novembre avec un petit peu de retard, mais c'est surtout une autre branche qui va être inaugurée seulement au printemps. Et ça m'amène à te poser la question suivante, Rémi. La Caisse de dépôt et de placement, c'est un organisme qui gère l'argent, le bas de laine des citoyens. Est-ce qu'elle a vraiment des compétences en infrastructure?
Bien, elle n'en a pas à la base. Elle peut en développer et je vais peut-être vous surprendre. Moi qui suis plus à droite sur le plan économique, je n'ai pas de problème en soi avec le fait que la CDPQ existe et qu'elle se lance dans des projets comme ça. Je trouve que c'est très québécois que de se lancer dans les grands chantiers. Faut les réussir. Je lisais ce matin Jean-Marc Arbault, qui est le président de la CDPQ Infra, il dit que c'est vraiment dommage qu'on ne parle de ce projet-là que lorsque ça va mal. Si on se compare aux autres provinces du Canada, c'est un projet ambitieux. On est les meilleurs là-dedans. On a développé l'une des plus longues lignes, l'un des plus longs tracés au monde. Il a peut-être raison, mais on peut pas, on va pas réinventer la roue. Lorsque vous ratez votre coup, lorsque le REM reste fermé, lorsque le service est interrompu le matin, lorsque des gens vendent leur voiture en région pour faire confiance à ce réseau-là et que le réseau n'est pas au rendez-vous, c'est un peu normal que les médias, puis là je parle de nous trois, on rapporte ces nouvelles-là, on fait notre travail, puis on n'a pas effectivement le mandat de la CDPQ Infra que de se concentrer sur les bonnes nouvelles. Quelles bonnes nouvelles, soit dit en passant? Je veux dire, le tracé marche une fois de temps en temps, on a lancé... Oui, de grands projets, mais on va pouvoir saluer CDPQ Infra lorsque les tracés vont avoir été exécutés. Moi, une feuille, un plan, un brouillon ou un plan d'architecte, ça ne m'impressionne pas, là. Moi, je veux regarder le truc, l'entendre le moins possible parce que ça fait bien du bruit. Puis là, après, être impressionné, on va faire les choses dans l'ordre, là, si on veut bien, là.
Comment est-ce que ça se peut de t'entendre dire qu'il faut les réussir, mais de ne pas y croire maintenant? De ne pas croire que ça peut réussir, finalement, un projet comme ça.
Bien, en fait, c'est tellement normal comme posture, Pascal. Je veux dire, Si on lance 1001 projets dans les arts et qu'on en réalise 55, ben, c'est un peu normal que de se rappeler des. Là, je suis plus bien bon en mathématiques, là. Sauf que la soustraction, disons, tout ce qui reste n'a pas fonctionné. J'exagère, évidemment, on en réussit beaucoup
Oui.
plus que je viens de mettre sur la table, mais il faut réussir ces grandes affaires-là parce qu'on le sait, de toute façon, il y a des entreprises asiatiques, européennes, qu'on aurait pu appeler, ils seraient venus ici, ils auraient fait le travail. Et ils auraient été redevables imputables. Ces entreprises-là auraient vu leur performance en bourse baisser si elles avaient été derrière un échec. Donc là, on fait confiance à des fonctionnaires, on engage du monde du secteur privé, on les paye très cher, on dit c'est normal, s'ils allaient dans le secteur privé, ils seraient payés aussi cher. Il faut que ces gens-là puissent nous offrir les résultats escomptés. Puis ce projet-là, depuis le début, moi, il me rend un peu mal à l'aise parce que si on fait de grands projets d'envergure, on peut-tu les faire aussi, hein? Puis qu'il soit beau. Et je ne sais pas si vous avez vu des images de des wagons du REM, là, on se croirait
Une
en.
méchante structure, hein?
Alors, qui grince avec des espèces de grands barbes. On se croirait en Slovénie, là, en ex-URSS, avec des espèces de wagons,
On
là.
est-tu dans le film de Rocky, là, quand le tramway passe, puis Rocky est en
À
dessous en train de
Philadelphie.
courir, là, à Philadelphie?
Oui. Je ne peux pas croire qu'on n'aurait pas pu, je ne sais pas, juste ne serait-ce que sur le plan esthétique, se choisir quelque chose qui aurait été beau à regarder. On savait que ça faisait du bruit. Fait que là, on se dirait, ouais, mais tu sais, du bruit fait par quelque chose de beau, ça passe mieux que du bruit fait par quelque chose de laid. Hein? Tu sais, si au moins ça avait été beau, on aurait été plus patient. Là, c'est pas super beau, c'est mal livré, puis on nous dit on est meilleur qu'ailleurs. Ouais, mais regardez, je sais pas, là, dans d'autres villes canadiennes, ils n'ont pas eu cette idée-là. C'est peut-être sûr que notre tracé est plus long que à des places où ils n'ont même pas de tracé, là, franchement.
Rémi, on change de sujet et tu m'as surpris, puis tu me surprends tout le temps dans tes chroniques anyway, qui sont les mardis et jeudis aux alentours de 13h dans l'émission On en jase. Tu l'as dit tout à l'heure, tu es un gars de droite économique, mais là, tu m'écris puis tu me dis, ouais, là, Jeff, là, je commence à trouver ça bizarre. Tout le monde est à droite dans le gouvernement du Québec. La CAQ veut couper dans la bureaucratie. Éric Duhaime, Yuri Chassin sortent hier pour la même chose. Là, il y a même le PQ de Paul Saint-Pierre Plamondon qui dit, c'est une bonne affaire. Coudonc, on est-tu en train de vivre un virage idéologique au Québec?
Bien, en fait, c'est ça que je me demande. Y a-t-il une surenchère à droite? La CAQ, un cabinet ministériel, moi, je vous l'avais dit, là, le jour où on avait commencé à entendre des noms, ça se dessinait là, pour être plus à droite. Drainville qui avait parlé de lâchez-moi les GES en vend l'environnement. Duranceau avec sa main de fer dans un gant de velours, parce qu'on le sait qu'elle s'habille super bien, c'est chic, elle a le droit, on s'en fiche. Elle est au Conseil du Trésor. Elle a annoncé ses couleurs. Sonia Lebel, qui était au Conseil du Trésor, qui s'en va à l'éducation, là où on ne cesse de dire qu'il y a du gaspillage. Donc ça, c'est pour la CAQ. Au Parti québécois, qui a la réputation d'être un parti très social-démocrate, PSPP avait annoncé ses couleurs il y a un an en disant dans un Québec souverain, c'est pas vrai qu'on réengage tous les fonctionnaires du gouvernement fédéral. Là, hier, il fait une conférence de presse en disant quoi? Là, l'État doit voir ses missions se recentrer autour du service. On s'en fiche d'avoir des hauts fonctionnaires, des cols blancs qui remplissent la paperasse. On veut du monde qui soigne du monde qui enseigne à du monde. C'est ça le deal.
Mais là, c'est
Et
à la
parallèlement
mode.
à ça,
Mais là,
oui,
c'est à
non,
la
vas-y.
mode. C'est à la mode, Rémi. Tu sais, c'est un
Eh
peu
oui.
électoraliste parce que, autant que sous l'ère Couillard, l'austérité a fait peur puis a fait en sorte qu'il n'a probablement pas gagné son élection qui a suivi, il y a quelque chose à la mode qui permet de revoir la façon dont on parlait aussi de l'environnement parce que les gens en arrachent foncièrement.
Oui, tout à fait. C'est à la mode et après, tu sais, je pense qu'un parti politique est par définition électoraliste. Donc, tu sais, je veux dire,
Oui.
si tu décides d'être à droite, c'est parce que le monde est rendu à
Ben,
droite.
c'est ça.
Regardez, une autre façon de peser ce qui se passe en ce moment, regardez ce qui se passe. Il y a un conflit avec les médecins spécialistes. Il y a la STM qui est en grève. Inquiétez-vous pas, ça va être la même affaire avec la RTC à l'été prochain, aux alentours du festival d'été, d'après moi.
Ouais,
C'est
il va
ça
y
la.
avoir quelqu'un d'autre qui va se trouver une excuse, en effet.
Ça pète de partout. Et je n'entends pas de soutien populaire. Je lis pas de lettres ouvertes de gens qui disent « Mon père est un chauffeur d'autobus, puis il mérite son 120 000 piastres avec ses heures supplémentaires. » J'entends pas de gens qui défendent les syndiqués, puis les gens qui sont en train de mettre sur la table leur stratégie de négociation parce que les gens sont tannés, sont épuisés. Ils entendent tout le temps parler d'argent qui est flobé à gauche comme à droite. Les gens, ils mélangent des affaires et je les comprends. Nordvolt, ça clique. Donc là, c'est pas juste de l'électoralisme, c'est de se dire, on est rendu là au Québec. Et là, j'aurais pu même vous parler de Yuri Chassin, qui est devenu l'ami avec intérêt, l'ami avec bénéfice, je sais pas,
D'Éric
de
Duhaime.
Éric Duhaime. Donc là, il nous reste Québec solidaire. On devine qu'ils vont pas se transformer en un parti de droite. Pas. On aura quand même remarqué que QS n'a jamais été aussi bas dans les sondages. Et on a un Pablo Rodriguez qui est très, très, très discret sur ces questions-là. Il a préféré prendre la parole sur la clause dérogatoire à Québec, la loi 21, les grandes lignes sur le plan identitaire. Il se cherche, à mon avis, un positionnement parce qu'il se dit « je ne peux quand même pas faire exactement ce que le Parti conservateur, le Parti québécois et, la CAQ fait si je veux me démarquer ». Et c'est quand même le rôle du Parti libéral de se démarquer à cette étape-ci.
Rémi, j'ai assisté au débat justement des aspirants-chefs du Parti libéral du Québec lorsque ça s'est passé à Québec. Et il y a un Marc Bélanger qui disait « le Parti libéral doit s'associer aux syndicats pour faire des réformes dans la société, dans la gouvernance, ne doit pas combattre les syndicats ». Penses-tu que ça va être la ligne de parti de Pablo Rodriguez pour essayer de faire différent?
Non, je ne pense pas. D'ailleurs, Marc Bélanger, il faut juste quand même le noter, là, c'est un homme extrêmement sympathique. Moi, je l'ai rencontré deux fois, il est venu faire des entrevues, aimable comme au bout, mais sa vision du Parti libéral du Québec, elle a été complètement rejetée là, lors de la course à la chefferie.
Oui, 3,5 % de vote.
Oui, oui. Non, mais ça, c'est quand même intéressant de le noter parce que les gens ont voté pour quelqu'un d'autre, pour une autre vision du monde. Et moi, je ne vois pas Pablo Rodriguez aller là, c'est un opportuniste. Ça aussi, d'ailleurs, en passant, c'est comme l'électoralisme, tous les politiciens sont opportunistes. Là. C'est pas un reproche que je lui envoie. Là, je dirais que Pablo Rodriguez est un cas particulier quand on sait la façon qu'il a eu de se retourner comme ça en Parti libéral du Canada et « Ah, je suis Québécois et j'aime le Québec ». Je pense qu'il va aller là où le vent mène tout le monde en ce moment. Mais c'est pour ça que je dis qu'il va y avoir une surenchère. Parce que là, vous avez Éric Duhaime qui dit hier, « Je vous donne des idées. Il y avait un programme en 5 points. Volez-moi mes idées. » C'est ce qu'il a dit. « Volez-moi les idées. » Je le sais que je ne serai pas au pouvoir comme gouvernement en 2026. Donc, j'aime mieux vous donner des idées. Vous pigez dedans. L'heure est vraiment à la crise. Donc, l'important, c'est de régler des problèmes.
Mais là, Rémi, qui croit? On croit Éric Duhaime qui dit « Volez-moi mes idées, puis la CAQ va faire les idées d'Éric Duhaime ». On croit Paul Saint-Pierre Plamondon qui est rendu plus à droite. On croit François Legault qui, après 7 ans de gouvernance plus à gauche, redevient la CAQ de droite économique. Moi, je ne sais plus qui croit.
Bien, tu n'as pas besoin de croire personne. Tu as besoin de regarder ce qui se fait, tout simplement. Tu sais, si la CAQ dit « On est à droite », puis ils font rien à droite, bien, on ne les croira pas. Même chose pour Paul Saint-Pierre Plamondon, qui dans 1 an et quelques jours, normalement, devrait prendre le pouvoir. On verra bien si les babines suivent les bottines ou les bottines suivent les babines. Je pense que c'est ça l'ordre approprié. On a juste, tu sais, la foi en politique, c'est un divertissement, mais la chose qui est intéressante, c'est que les gens n'ont qu'à passer à l'action. Là, la CAQ, je serais, si on reste dans le registre de la foi, un petit peu obligé de les croire. Je les crois sur parole, puisque là, on met dehors du monde où on gèle des postes, 137 postes à l'environnement. Pour Québec solidaire, c'est la fin du monde. 137 postes! Hey, la fin du monde pour Québec solidaire. Eux, ils cherchent un agenda politique. Au mouvement des transports, même affaire, on gèle, on ne réengagera pas, on va bloquer des postes. Donc, moi, je crois la CAQ, là, ça arrive malheureusement beaucoup trop tard, parce que c'est, faut quand même se rappeler que c'est sous la CAQ que la fonction publique a pris le volume qu'elle a pris en ce moment. On parle d'une augmentation de 15 % en moins de 10 ans.
Rémi Villemur, c'est toujours un énorme plaisir de te parler à chaque mardi et jeudi dans l'émission On en jase. Je te souhaite une excellente émission 99.5 ce soir, une bonne émission samedi matin avec la collègue Jacinthe Varel et on se reparle mardi prochain.
Bye bye tout le monde, bon voyage!
Hey, merci Rémi!
Bon voyage à Pascal CV. Oui, d'ailleurs, Pascal, on va parler de ton voyage au Kilimanjaro au retour de la pause. Et on va également avoir une jeune dame très intéressante, Laurence Béliveau. Elle, là, avec son conjoint, ils recherchent une maison depuis des années, je pense. Ils sont professionnels ici dans la région de Québec.
Bien installés.
Et là, ils sont sur tous les sites de maisons. Ouais. Dès qu'il y en a une qui sort, ils disent « Ah ouais, on bête sur celle-là », mais sont jamais capables d'en avoir une. Fait qu'ils ont décidé d'écrire des lettres à des gens que la maison n'est pas encore à vendre.
Puis ça, là, ça arrive énormément.
Oh oui!
Hey, bonjour! Ou une belle petite famille. Ou...
Oui.
C'est le dernier espoir de bien des gens qui veulent devenir propriétaires. Cette histoire-là va faire vraiment penser à d'autres et ça va faire réagir, c'est sûr. Si c'est votre cas, 88-971-1021, oui. Envoyez-nous plein de commentaires par rapport à votre recherche de maison d'ici là.
Clairement. Confidence, quand j'ai vendu mon jumelé,
ça, c'est dans la dernière année?
Ouais,
et demie.
Ouais, dernière année et demie. J'ai eu 5 offres. Et ça m'a fendu le cœur de ne pas choisir l'offre de la belle petite famille.
Oui, parce que là, il y a le côté financier aussi.
Oui, avec, tu sais, ils ont déjà un enfant de 2 ans, puis là, la maman est enceinte. Puis là, ils veulent chercher quoi de plus grand?
Ils cherchent un petit quelque chose.
Mais ils donnaient 15 000 piastres de moins.
Ah, c'est déchirant.
Je peux pas dire oui.
Je comprends.
Mais Pascal, j'en ai pleuré le soir.
Pour vrai?
Ah oui, tu peux pas croire. Parce que je me remettais dans ce moment-là, moi, au moment où j'ai acheté ma première maison avec la mère de mes enfants, est enceinte d'Edouard. Puis on avait Elliot. Fait que je me remettais dans ce moment-là, la fierté de rentrer chez nous, de dire « Hey, on a 3 chambres.
C'est à nous.
Nos gars vont avoir chacun leur chambre, de décorer les chambres.
Ouais, » notre cocon.
Oui,
là, tu voyais cette famille-là à la recherche d'un cocon, puis malheureusement, avec tout le contexte de surenchère, ça vient avec le cœur brisé.
Oh, ça a fait mal, ça a fait mal. Donc, on parle avec Laurence Béliveau après la courte pause. Vous êtes sur Boulevard 102, l'émission d'En Jase. On en jase sur les ondes de Boulevard 102.1. C'est à tous les midis, de midi à 14h avec Jeff Fortin et Pascal CV. Guys, j'ai une énervée avec moi. J'ai une fébrile.
Ben
j'ai
oui.
une fille qui sait plus comment se tenir.
Ben, je sais pas ce que je vis. Je suis mêlée dans mes émotions, là.
Je la comprends tellement parce qu'elle est à quelques heures de partir pour son défi au Kilimanjaro. Ouais.
C'est tout en même temps. C'est le stock, l'Afrique, le défi physique, la gang. En tout cas, c'est vraiment quelque chose d'émotivement prenant, mais positif là, en ce moment.
Ça, c'est clair. On finit l'émission en parlant, c'est certain. Maintenant, si on revient à la réalité, oui. Mme Sévin, il y a de la circulation.
Ah oui, puis ça, c'est votre réalité pour les prochaines semaines. Je suis de tout cœur avec vous en passant. C'est très complexe sur les réseaux. T'sais, on en parlait un petit peu hier, mais là, incident sur Laurentienne Sud. Bretelle, l'accès pour Félix Leclerc, c'est du côté ouest qui est partiellement entravé. Il y a un accident, on est en remorquage en ce moment. Incident aussi du Dufresne-Montmorency-Ouest, hauteur pont de l'île d'Orléans. La voie centrale qui est partiellement entravée. On a des débris. Puis vérifiez aussi sur vos cartes parce qu'il y avait des fermetures à prévoir, entre autres pour le pont de l'île d'Orléans. Là. Donc, ça peut mener à peut-être des retards ou des désagréments dans vos prochaines heures.
Également, Pascal, on a un pool de hockey ici à Boulevard 102.1. Il faut absolument que j'aille m'inscrire, même si tu avais fait une promo extraordinaire. Je n'ai pas encore pris le temps, donc il faut que j'y aille. Ma blonde te dirait, il y a plein de choses aussi que je n'ai pas pris le temps de faire encore.
En fin de semaine.
Bon, ça en fin de semaine, je n'ai pas le choix.
Ça, c'est ta transition entre l'été et l'automne. Transition importante qui va mener à ton inscription au pool.
Oui.
Pourquoi? Parce qu'en plus, il y a plein de prix à gagner. Toi, tu peux pas, mais tu peux jouer. Des prix avec la fromagerie Victoria. Ce sont nos fidèles. Hein. Ils sont souvent dans nos projets. Okay, ils embarquent encore une fois avec un grand prix de 500 $ chez Fromagerie Victoria, une entreprise familiale depuis 75 ans. Il faut savoir que même si vous n'êtes pas la grande personne gagnante du Grand Prix, bien, chaque mois, il y aura une carte cadeau de 200 $ parmi le top 25 de ceux qui sont dans le pool à gagner. Alors, rendez-vous au blvd.fm. Tu cliques sur l'hyperlien, puis ça va te mener directement là, au pool. C'est sur marqueur.com. Puis, tu suis les indications. Si tu es un pro, parfait. Si tu es un débutant, parfait, c'est pour tout le monde. C'est un peu du hasard, puis on veut battre Max Larouche, on veut s'amuser ensemble.
Et souvent, les débutants sont forts là-dedans.
Très.
Parce que les personnes qui connaissent ça comme moi, là, on y va bien trop avec nos stratégies.
Vous êtes dans suranalyse.
La suranalyse, et voilà, c'est le mot que je cherchais. Ouais, un tel, il joue avec lui, je vais aller voir quel trio, quel power play. Toi, t'es débutant, tu sais même pas ça. Tu dis, hein, il y a un beau nom, lui. Ah, voilà, je clique dessus, puis il en score 40 dans l'année. Ça arrive tellement souvent. Pascal, on en parlait avant la pause. Laurence Béliveau, une jeune entrepreneur de 34 ans, et son conjoint Julien Carignan, un développeur web de 36 ans, sont à la recherche intensive d'une maison. Ils ont bien beau être inscrits sur toutes les plateformes. À chaque fois qu'ils disent « Hey, cette maison-là me plaît, est déjà vendue ou il y a trop de surenchères. » Alors, ils ont décidé d'y aller d'un stratagème très spécial et on a justement au bout du fil Laurence Béliveau. Laurence, comment vas-tu?
Très bien, merci.
Good. Laurence, merci beaucoup pour ta disponibilité aujourd'hui. Laurence, explique aux auditeurs ce que vous faites, toi et ton chum, présentement pour vous trouver une maison parce que c'est très inusité, très créatif.
Oui, merci. Ben, en fait, ce qu'on fait là en ce moment, c'est qu'on rédige des lettres. Puis on y va par secteur. Donc, en fait, nous, on est dans la ville de Québec. Puis on regarde des secteurs dans lesquels on pourrait se déplacer facilement à pied et à vélo parce que c'est une des choses qui nous importe beaucoup. Et on écrit des lettres aux propriétaires qui n'ont pas nécessairement mis les maisons à vendre. On se fie principalement au secteur. On se fie à l'évaluation municipale parce qu'on ne va pas envoyer des lettres à des gens qu'on n'aurait pas les moyens d'acheter leur maison. Mais on fait vraiment juste leur écrire pour dire « Hey, bonjour, est-ce que vous avez envisagé de vendre, est-ce que vous envisagez de vendre votre maison prochainement dans les prochaines semaines ?» prochains mois. Si oui, on aimerait ça jaser avec vous. Fait que, tu sais, c'est vraiment une lettre d'ouverture d'humain à humain pour dire qu'est-ce qu'on peut vous offrir dans le cas où vous êtes ouvert pour vendre votre maison et nécessairement, possiblement éviter de la mettre directement sur son prix ou du proprio.
Donc, vous n'êtes pas nécessairement pressé dans vos démarches?
Bien, il faut dire que ça fait déjà plusieurs mois, presque un an, en fait, qu'on est en recherche. Mais on est ouvert et on prend quand même notre temps parce qu'on sait très bien que choisir sa maison, c'est pas nécessaire. Ben c'est pas une démarche qui se fait à la va-vite. Donc on est quand même ouvert à ce qui se passe un certain délai. Mieux vaut prendre son temps pour trouver la bonne place où vivre.
Laurence, est-ce que vous avez un peu un découragement quand même dans cette dernière année-là? Pensez-vous que ça allait aller plus vite?
Oui, ben c'est sûr que quand on a commencé, on s'était dit ah ben ça va bien aller, on va peut-être être déménagé au printemps ou à l'été. C'est sûr qu'à un moment donné dans notre démarche, on a vraiment été découragé, puis ça a été difficile parce que perdre des gardes de surenchères, une maison après l'autre, puis tu sais, s'imaginer vivre dans un secteur qui nous plaisait, ça, à chaque fois ça fait un peu mal. Mais on s'est retroussé les manches et on s'est dit non. On va pas entrer dans la négativité. On va essayer de trouver une façon plus positive d'aller faire du démarchage nous-mêmes, en fait. Puis, on s'est dit, là, à un moment donné, le marché, il est comme il est. Comment on fait pour trouver une solution un peu créative pour aller approcher les gens puis essayer de mettre un peu plus le côté humain à travers les transactions?
Mm-hmm. On vous reçoit comment là-dedans? Est-ce qu'on est surpris parce que, justement, on veut pas vendre puis vous arrivez avec votre lettre?
Bien, à date, on a déjà eu un premier retour hier d'une personne à qui on a envoyé une lettre. Je vous dirais que c'est très positif. La personne qui nous a répondu nous a dit « Écoutez, moi, je suis pas prêt pour vendre, mais je trouve votre démarche vraiment le fun. Je vous trouve sympathique. Je trouve que c'est bien écrit. Puis, vous faites bien de regarder dans le secteur. C'est un beau secteur. Puis, vous seriez heureux là, probablement. » Puis, ça fait juste comme amener un peu de bienveillance, d'empathie à travers la situation. Donc, tu sais, notre lettre, elle est vraiment écrite en mode ouverture. C'est comme... Si vous pensez à vendre, jasez-nous. Puis sinon, ben, il n'y a pas de problème. Passez une bonne journée. Tu sais, ça veut vraiment une lettre d'ouverture.
Qu'est-ce qui fait, Laurence, que vous voulez absolument obtenir une maison? Est-ce que c'est pour peut-être construire une famille? Est-ce que c'est pour avoir justement un investissement concret qui va permettre là, de par la suite là, d'avoir un actif là, immobilier important?
Non, c'est pas vraiment pour l'aspect d'avoir un actif immobilier. C'est vraiment pour avoir une certaine jouissance de vivre. Actuellement, on vit dans un petit 4,5. Moi, j'ai mon entreprise et mon conjoint aussi, des fois, travaille à la maison. Fait qu'on se retrouve vraiment très coincé.
OK, Laurence, il t'écoute pas ton chum Julien présentement. Là. Dans le fond, là, t'es juste écœuré de l'avoir dans les jambes. Là. Dis-nous-le. Là.
On aime beaucoup partager notre bureau, mais on a besoin d'espace, et moi, pour mon entreprise, et on veut vraiment aussi bâtir le projet famille, et on n'a aucune place disponible. Puis, la dernière chose, c'est vraiment d'avoir un petit jardin. Donc ça, c'est difficile d'avoir ça en condo ou en appartement.
Est-ce que les gens autour de vous sont dans la même situation que vous? Parce que j'ai l'impression, par la voix, la petite famille et tout ça, c'est quand même une génération qui en arrache plus pour devenir propriétaire. Puis là, clairement... Tout le monde y va d'une façon créative ou encore déplore le fait que c'est super compliqué. Jusqu'à maintenant, côté surenchère, vous l'avez vécu à combien d'argent? Tu sais, mettons, vous vous dites, hey, des fois, là, ça pitchait 30 000, 40 000 au-dessus de ce que nous, on avait pitché.
Ah oui, ça ressemble pas mal à ça. C'est comme là, actuellement, je vous dirais, c'est nous, on se ramasse souvent dans ceux qui misent juste un petit peu plus, mais ça va facilement jusqu'à 100 000 au-dessus du prix demandé. Là. C'est même pas exagéré ce que je vous dis là. Donc, nous autres, on se ramasse et on a l'air de pas offrir quelque chose d'intéressant. Puis on offre déjà un prix avec une surenchère. C'est ça un peu qui nous a fait dire, ben voyons, on pourra jamais se battre avec des surenchères aussi énormes, tout simplement parce que nous, on n'a pas le leverage d'une autre transaction. On n'a pas fait de profit sur une transaction. Donc là, nous autres, en fait, le prix des maisons a augmenté beaucoup plus rapidement que nos placements, par exemple.
Mm-hmm. Laurence, vous prévoyez distribuer environ 250 lettres au cours des prochaines semaines. Ton niveau de confiance de 1 à 10 que la démarche fonctionne, il se situe à combien? 1 étant « Ouf, j'ai pas grand espoir », puis 10 étant « Ça va marcher ».
10, parce que... Ben déjà, il faut partir avec un état d'esprit positif. Puis moi, je pense que juste le fait d'en jaser, les gens parlent à leurs voisins, nous disent « Hey, on va appeler les voisins, voir de coup que... » Juste ça, là, c'est suffisant. Je suis persuadée que ça va faire une différence. On est les deux très confiants, en fait.
Laurence Béliveau, merci infiniment d'avoir participé à l'émission « On en jase » sur Boulevard 101. J'espère justement que le rayonnement qu'on a donné à toi et ton chum va vous permettre de trouver votre maison. Continuez votre démarche, vous êtes très beau à voir à l'œil. Mais je continue à penser que ton chum te tape ses nerfs un peu, Laurence.
Ah, vous pensez ce que vous voulez, mais ça me fait vraiment plaisir d'avoir pu jaser avec vous. Puis j'espère inspirer d'autres jeunes qui sont dans la même situation à leur donner un petit coup de positivité.
Ah oui, je l'espère aussi. Merci beaucoup, Laurence. Bonne fin de journée. Salut. Vraiment, mais vraiment pas facile, Pascal. Puis tu le sais, je pense que tu es là-dedans également, le fait de se trouver une maison là, à l'heure actuelle.
Bien, moi, c'est sûr que je regarde depuis quelques années, la situation est différente. Puis je sais que j'ai manqué un peu mon opportunité quand c'est devenu très, très chaud. Je mets des sous de côté depuis longtemps pour ça, sauf que en ce moment, je me résigne. Je me dis non, je suis encore mieux en logement côté dépenses. Là. Ça fait pas trop de sens, puis j'ai plus un projet différent, là, un genre de bloc propriétaire, habitant, des trucs comme ça. J'ai pas envie de me rendre là-dedans. J'écoute ça, je les trouve bons.
Non, parce que selon les données de Centris, le prix des maisons à Québec a bondi de 43%
c'est
depuis
énorme.
2021.
Puis on dit souvent que le meilleur moment, c'était hier. Fait que là, tu sais, c'est un peu stressant.
T'as entièrement raison. Dans les premiers mois de l'année, les maisons unifamiliales se vendaient en moyenne 8% de plus que le prix affiché, ce qui représente un écart moyen de 37 000 $. Puis ce que Laurence disait, je l'ai vécu avec Val quand on se cherchait une maison justement pour réunir les deux familles ensemble. Je me souviens, un jumelé à un moment donné qui avait assez de chambres. On dit « OK, 295 000, barcard, on va mettre 305 000. » Bien, il s'est vendu 412 000.
Aïe, aïe, aïe.
Fait qu'il s'est vendu 117 000 de plus. Aïe, là, je me suis à ce moment-là qu'on était découragés. On se disait, on n'en trouvera jamais.
Aïe, 117 000 de plus. Ça veut dire que ça veut même pas... En tout cas, c'est pas certain que tu réussisses à le revendre à ce prix-là moment
exactement.
Où tu vas être prêt parce que ça augmente pas de 110 000 quand tu claques des doigts. Puis tu peux te séparer. Il y a plein de... plein de situations où tu vas perdre ton argent.
Hein? Exactement. Puis ce qui arrive, puis je parle par expérience, ce qui arrive, puis quand je te disais justement que j'avais vendu mon autre jumelé, puis là que ça m'avait fendu le cœur, je l'ai vendu à une famille, par contre, mais qui déménageait de Montréal. Les deux personnes s'est trouvé des emplois à Québec. Et ça, ce que je me rends compte, c'est que ces gens-là, ils surenchèrent énormément parce qu'ils vendent la maison à Montréal. Les maisons sont d'une valeur plus grande à Montréal. Fait qu'ils peuvent surenchérir à Québec.
OK, c'est comme une stratégie, finalement.
Exactement. Et ils sont dans un laps de temps très serré parce que, OK, je me suis trouvé une nouvelle job ou je suis transféré avec le travail. Donc, surenchère, eux, parce qu'ils disent « J'ai absolument besoin d'un toit. J'ai absolument besoin de déménager la famille. » Fait que c'est ce qui m'est arrivé, moi, dans la vente de mon jumelé. Fait que j'en ai bénéficié à la hausse. Mais c'est ce qui est arrivé également dans le cas de la surenchère là, du jumelé que je te parle. C'est des gens qui s'emmenaient de Montréal. Fait qu'il y a cette réalité-là également.
J'ai envie de lire les histoires des gens aussi. Tu sais, Jeff, la tienne est hyper pertinente. Celle de Laurence aussi, qui est vraiment pertinente. Je me demande comment ça se passe pour ces histoires-là de nos auditeurs. Puis on a quelques messages. Là. Entre autres, il y a des gens qui disent « C'est rendu déraisonnable. Moi, j'ai oublié mon rêve d'avoir une maison. » Quelqu'un d'autre qui dit « Mon Dieu, je ne vendrai jamais ma maison. Je l'ai achetée il y a 30 ans. » Vous pouvez encore commenter sur Twitch en passant. Et également 88-971-1021. Mais ouf.
Oui, et puis on a également une auditrice qui nous écrit « C'est complètement insensé les surenchères sur la vente des maisons. C'est toujours ceux qui ont le plus d'argent qui gagnent à la fin. » Ouais, malheureusement, c'est ça. Je vous l'ai raconté à quel point j'avais le cœur brisé. Pascal, on est à 9 minutes de mettre fin à cette émission-là. Donc, tu es à 9 minutes de prendre congé de moi, des auditeurs de Boulevard pour 3 semaines.
C'est pas le but, hein?
Non, je sais. Mais là, comment tu te sens?
Je suis hyper fébrile. Je te dirais que cette semaine, on dirait que c'est un mélange d'émotions parce que c'est particulier de se préparer à un trip comme ça. Hey,
mais...
C'est une liste d'équipements qui passe du sac de couchage au matelas de sol, au liner isolant, à multicouches. Fait que ça veut dire que mes vêtements sont hyper techniques. Le plus possible qu'ils sont légers, je le prends. Le plus possible qu'ils sont en
matériaux particuliers comme le mérino, je le prends, ouais. parce qu'on ne sait pas s'il va pleuvoir pendant 7 à 10 jours. Mais et donc, vrai, pas de corde à linge, pas de sécheuse, pas rien. Tu es dans une tente, tu es au sol. Ou il va faire soleil. Mm-hmm. Mais encore là, tu pars à 34 degrés en ce moment. Là,
ben
j'ai
oui.
regardé pour la Tanzanie, le Kilimanjaro. On commence notre trip, notre hike, notre randonnée
degrés.
À 34 degrés. Et on finit à moins 25. Mais ce qu'on apporte sur notre dos ne doit pas dépasser le 33 livres, le 15 kilos.
Ah,
pour nos porteurs.
Et là,
qui
c'est
sont
un écart de température de 59 degrés.
Et tu traînes tout ça. Les porteurs, ce sont les. Moi, j'aime ça dire MVP, là, les joueurs
clairement.
Du match, parce que c'est eux qui font ça plusieurs fois par année. Dans l'altitude, ils sont acclimatés, mais quand même, porter notre 33 livres sur le dos, c'est fascinant. Sauf que ils nous dépassent même, ils partent après nous, ils amènent des tentes à la nourriture. Chose étant, se préparer mentalement à ça, moi, j'ai toujours été une bibitte un peu spéciale. J'y vais, go with the flow. Je serai dans l'instant présent, au moment présent. C'est pas des choses qui me stressent. Mm-hmm. Mais toute la préparation que je fais depuis un an pour que physiquement je sois prête, en passant, on fait pas d'escalade au pic. C'est pas ça du
mais
tout.
Mais ça reste quand même une méchante montée, là, on s'entend.
Oui, c'est dans l'endurance. Puis c'est surtout la descente. Hein. On va descendre pendant plusieurs heures de suite. Là, on parle de plus de 10 heures. C'est pas bon pour les cuisses, donc les
en
genoux, les ligaments.
Les hanches aussi, je pense que ça vient travailler.
Ils nous ont dit vous allez avoir mal. Là. Okay. Vous allez avoir des petites blessures en sortant de là. Mais je pense que le challenge, il est climatique et surtout l'altitude.
C'est ta plus grosse crainte, le climatique et l'altitude?
Oui, le climatique, mis à part si ça tombe en hypothermie, qui peut être un risque, puis là, ils nous ont parlé de se trouver un genre de binôme de corps à corps pour se réchauffer, là. C'est l'altitude. Parce qu'il y a un ultra-marathonien dans les dernières années qui ne s'est pas acclimaté, il a poussé son corps, il en est décédé. Peut faire un œdème au cerveau pulmonaire. Il faut que tu t'écoutes énormément. Chaque jour, ils vont nous tester et tout ça. L'altitude, c'est pas fait pour tout le monde. Mm-hmm. On s'acclimate deux jours avant. On a l'émocho. C'est le chemin le plus lent qu'on peut prendre pour faire le Kilimanjaro. Donc, on se donne plus de chance. Mais n'importe qui est très, très en forme peut trouver ça très complexe versus le contraire aussi est possible.
Là, tu dors dans la même tente que Joanie Fortin le week-end.
Oui.
Joanie, elle ronfle-tu?
Je connais rien de tes habitudes de sommeil.
Okay. Toi, mais, tu ronfles-tu?
Non, pas non. Mais fatigué comme on va être.
Peut-être.
Il y a des risques. Fait que là, on a bouchon, on a nos petits sleeping, notre petit stock. Il y a des affaires qu'on se jasait ce matin du type, hey, si on peut s'éviter ça. Tu sais, la proximité, c'est une chose, mais je te rappelle, c'est une collègue, ça sera certainement une amie en finissant ça.
C'est clair.
Mais quand on se fait dire apporter une Nalgene de plus, une bouteille d'eau pour faire pipi dedans dans votre tente, là, moi, il n'y a pas grand chance que je me baisse les culottes devant Joe puis que je commence. Mais écoute, la nuit se met à moins 26, il y a une tempête de vent ou quoi que ce soit, et ça se peut qu'on soit rendu là, mais on a vraiment envie de ne pas se rendre là.
Je suis très d'accord. Il y a plein d'auditeurs là, qui t'écrivent « Bon voyage, sont super gentils. » En effet, très bon trip. T'en as parlé, une petite bouteille, mais sinon, comment fait pour aller aux toilettes?
Hein? C'est dans la brousse. Ça va être au-delà de ce que j'ai vécu dans ma vie. Je l'ai fait du racket de chaque et tout ça.
Oui.
Mais aussi longtemps, à la lingette humide, puis j'ai acheté, ça s'appelle un Tinkerbell. C'est un peu comme un Go Girl. Mm-hmm. Ça t'aide à avoir une rallonge comme vous avez. Mais moi, c'est pas vrai, tu sais, que ça va me couler dessus.
Non, je comprends.
Y a des mécanismes comme ça qui existent, mais tu sais, ça m'a coûté extrêmement cher à m'équiper, mais je voulais être le plus technique possible, donc pour la rallonge.
Donc pour la rallonge.
Vous êtes chanceux, les gars.
Ouais, on est chanceux. Oui, ça, je l'ai toujours dit.
Je sais pas si c'est une rumeur, Jeff, mais on nous a parlé d'une tente, OK, dans laquelle on va devoir faire nos besoins. Puis certaines tentes, ta tête, elle sort. Tu sais, moi, je comprends la belle vue, là. Mais le partage de eye contact pendant que je fais pipi m'intéresse pas non plus.
Non plus, non.
Ou pendant que quelqu'un fait que...
Hey, salut! Numéro 1 ou numéro 2?
Je pense que ça va être une joke de A à Z. Puis, on a fait des podcasts avec la gang du Kili ici en collaboration avec Boulevard 102.1. Ça sort peu à peu sur le site, en fait, la page Facebook de Kilimanjaro, Jean de cœur, Jean de défi. Et dans le mien, je pense que ce qui va me sauver, c'est à quel point je ris. Quand je suis déstabilisée, je ris. C'est le sens de l'humour, de ramener ça aux petites choses. On va pas mourir, on fait ça pour une bonne cause.
C'est ça.
Ça va être de se rappeler ça.
Méchant bel exploit, Vincent, qui écrit « Appelle-nous sur le top ». Ben oui, hein, parce qu'on a prévu ça. Tu vas nous appeler à 3 reprises minimum dans l'émission du matin.
Oui.
Et dont la fameuse journée où tu vas être sur le top, qui devrait être lundi le 6 octobre. Je le dis pour nos auditeurs.
Exact.
Parce que je pense que ça va être un moment de ne pas manquer dans Marceau le matin.
C'est ça, ça va être avec vous le matin. Ça, c'est statué autour de 8h45, mais on veut quand même pas le crier parce qu'on sait pas ce qui nous attend aussi, là. Mais autour de ça, puis effectivement, on a visé le 30, on a visé le 2 et on a visé le 6.
Quand vous serez rendu au sommet. Parce que 4-5, c'est la fin de semaine. Sinon, on t'aurait parlé avant, mais bon, la fin de semaine, on sera pas en nombre.
Non.
Pendant que toi, tu vas travailler très fort à escalader la montagne. Il y a Sébastien qui dit « Reviens-nous avec un récit palpitant. » Ouais, je pense qu'on va se réserver une bonne demi-heure quand tu vas revenir dans l'émission d'Angers.
Tu sais, récolter une coupe de patentes, puis ça va faire en sorte que tout le monde va être très vulnérable. Puis mm-hmm. je reviens aux enjeux de la santé mentale là-dedans. Je pense que pour la première fois de ma vie, Jeff, je vais la pousser au summum de sa limite.
Ouais, hein, t'as raison.
Le climatique, l'endurance, être avec des gens que tu connais ouais. pas. Moi, je sais que souvent, j'ai besoin de ma petite bulle des fois.
Mm-hmm.
Tu le vois quand je travaille, quand oui. je lis mes affaires, j'ai souvent mes écouteurs. Mais tout le monde va réagir de façon différente. Puis c'est beau ça aussi. C'est très
oui.
humain.
Vous semblez avoir un méchant bel esprit d'équipe, la gang qui s'en va là-bas. Là.
Je capote. C'est ça qui m'a convaincu de le faire.
Ouais.
Parce que dès le départ, Marc-Antoine Reed m'avait approché, 2 ans maintenant, parce que là, on est rendu à le faire. Mais pour des raisons personnelles, moi, c'était ironique, ma santé mentale n'était pas au top. Puis j'avais dit, reviens-moi dans un an. Puis là, finalement, il m'est revenu. Puis j'ai rencontré la gang, puis j'ai dit, je peux pas faire ça, pour toutes les raisons du monde. Puis. Ce sont des gens d'affaires de la région qui sont là avec leur cœur. Au-delà d'avoir réfléchi 150 fois à ça, ils sont allés avec leur cœur.
Ouais.
Puis cette gang-là, je pense, fait transparaître le pourquoi en société, il ne faut pas oublier de s'aimer, il ne faut pas oublier de se donner du temps, d'apprendre à se connaître. Parce que on part à zéro dans ces liens-là. On a appris justement à se côtoyer. C'est toutes des personnalités qui sont différentes, puis ça fit. Fait que c'est pas mm-hmm. vrai. Il n'y a rien à faire quand tu es différent de quelqu'un.
T'as entièrement raison. C'est un extraordinaire message que tu nous livres. Va conquérir le Kilimanjaro
merci,
pour
mon
nous.
Ami.
Ah non, tu sais à quel point j'ai de l'admiration pour qu'est-ce que vous faites. Je te l'ai dit tantôt hors d'onde. T'es prête. T'es prête mentalement,
oui.
T'es prête physiquement. Ce que tu vis là, c'est normal. Si je m'enlève pour le Kilimanjaro, moi aussi, je serais comme « Oh mon Dieu, c'est aujourd'hui, là! »
C'est le petit pipi nerveux, là.
Hey, mais ça, je capoterais ma vie. Bravo, bravo, bravo
merci.
De le faire. Tu sais à quel point j'ai à cœur la cause de la santé mentale. Merci de faire ça pour les
merci
gens.
Merci à vous autres.
Qui vont être aidés par la suite grâce à toi.
Mais écoute,
félicitations.
Des dizaines de mille qu'on a ramassés jusqu'à maintenant grâce à
ouais.
vous. Puis on n'aura pas de réseau pendant 10 jours. Ça, c'est une autre facette très intéressante.
Hey, oui, ça,
je pense que c'est la seule fois de ma vie aussi que ça
ouais, passe. Ça, je veux que tu m'en parles en venant. On est tellement dépendants. Puis là, je le prends dans mes mains à cette petite machine.
Oui, on est toujours connectés.
Que oui, faut absolument que tu nous parles de ceci. Je le répète, pendant ton absence, c'est Mathias Turcotte qui
oui,
va être avec moi.
Mathias.
Exactement. Antonine va faire une petite demi-heure de surplus aussi à chaque jour, donc elle va être avec nous de midi à 13h. Tu nous appelles le matin dans Marceau le matin. On veut savoir comment ça va. On a confiance en votre équipe. On a confiance en toi. On a confiance en
Joe. Je vais sentir votre support, je suis sûr.
Ah, écoute,
c'est fort, ça, des fois.
Je te l'envoie. Gars, je t'envoie un avion de support. Il est déjà rendu au Kilimanjaro. Tu le ramasseras en bas de la montagne.
T'es fin. Puis pendant que vous mangez vos bons repas chauds d'automne, puis que vous êtes dans votre doudou, puis vous vous collez avec vos proches, là,
c'est
vous penserez
ça.
À moi.
Ouais, Nadine qui dit « Enjoy Pascal », Steve qui dit « Est-ce que tu peux appeler Yann d'entendre de pipi? Bon, » on verra.
Hey, ce serait son rêve, à me ridiculiser de même. Là.
C'est ça. Merci Pascal, c'est
merci
vrai, bon
autres.
Trip. Le retour de Gravel qui suit à l'instant avec Denis, Véro et Audrey comme à l'habitude. Et nous, on est de retour sans Pascal, c'est vrai à midi, demain. Bon Kilimanjaro.
J'ai tout lu vos messages, 88-971-1021. Je ne peux pas répondre aujourd'hui exceptionnellement. Je dois filer à Montréal, mais je vous lis. Merci pour tout.
Yes!
À bientôt!
Salut, amuse-toi. C'était l'émission d'En Jase. On dit un beau bye-bye puis un bon succès à notre ami Pascal
Sylvain. Merci, mon ami.